Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Au programme cette semaine, on va parler de Mortal Kombat 11, de Final Fantasy 12, de Blades, Elder Scrolls Blades 13, Box Boy 14, Life is Strange 15.
Tranquille.
Évidemment.
Évidemment, c'est ça le programme. Et pour en causer, j'ai le plaisir d'accueillir quatre de mes chroniqueurs favoris, chroniqueurs et chroniqueuses. Camille Suard, bonjour Camille.
Hello.
Oula.
Ouais, je la vois un peu cassée, désolée.
Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien aussi, ça passe
ça,
bien.
Ça, de passer la nuit sur Life is Strange.
La version grunge de Camille Suard.
Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Corentin Benoît Gonin des Croissants, bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Mais je l'avais annoncé, en fait, j'avais spoilé au dernier épisode il y a deux semaines. On a le plaisir de l'avoir en studio avec nous, Jérémy Kletskin. Bonjour Jérémy.
Salut Erwan et salut à tous.
J'avais pas fait gaffe à ton t-shirt, pas mal.
Ouais, j'ai un t-shirt Neo Geo.
Neo Geo.
Le boot, l'écran de boot.
Ah, c'est grand. Max 330 mégas Pro Gear Spec.
Ouais, je me le réimprime tous les 3 ans environ.
Il faut le petit son, le fameux son qu'on entendait.
Le fait d'avoir cette référence prouve un certain standing social à une certaine époque. Hein.
C'est un super détecteur de gens cool. Quand tu te balades avec ça, les gens qui reconnaissent.
Et de gens riches à l'époque.
Mais Corentin, c'est atemporel, la Neo Geo, elle n'est pas datée du tout.
Je parle pas datée, je parle qu'elle était chère à l'époque.
Survole le temps.
Ça fait partie. Il y a des gens, et je crois que j'en connais, mais genre avec leur premier salaire, tu sais, ils ne pouvaient pas se payer la Neo Geo, et avec leur premier salaire d'adulte, en fait, ils sont allés...
J'avoue, rue des écoles, à l'époque, j'ai foncé, j'ai acheté une Neo Geo cartouche.
Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on était riches à l'époque, ça veut dire qu'on
habitait chez nos parents et qu'on n'avait pas de loyer à payer.
La checklist où tu dis, il me faut une Neo Geo, c'était un peu l'entrée à l'âge adulte.
Enfin, bref, je vois, les rites initiatiques.
Pas rentrer dans ces... histoire là, c'est un peu personnel.
J'ai malheureusement revendu la mienne pour acheter une Turbo GT à l'époque.
Ça c'était.
Et voilà, deux minutes de passé sans qu'on ait demandé quoi que ce soit.
Ouais, beaucoup de gens qui ont acheté une PlayStation aussi qui ont vendu à l'époque des Neo Geo et qui sont vendus aujourd'hui.
En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser. Je pense que vous pouvez tenir.
Hein. Neo Geo, écoute, allez-y les mecs, sortez, on va.
Je suis chaud.
On va quand même commencer avec toi, Corentin. C'était attendu, je ne sais pas, moi j'étais pas au courant.
Si.
C'était attendu.
Bon, tu sais, comme d'habitude, les directs de Nintendo sont annoncés genre 2 jours avant ou 3 jours avant.
Moi, je pensais à toi hier soir quand je savais que
tu
attendais depuis
direct ferme. Nintendo sur l'événement.
Voilà,
l'événement pour de cette
lui.
Fin de
donc, hier, tout le monde. Donc hier soir, il y avait donc GOTY Direct sur YouTube. C'était bien, donc Super Mario Maker 2 Direct. Hein, moi, bon, c'est pas un secret. Oui, bonjour.
Mercredi
oui,
soir. Monsieur. Mercredi soir.
Oui,
hier
bien
soir,
sûr, dans la nuit de mercredi à jeudi, absolument, il faut le préciser. Donc, on nous a présenté grosso modo le plus gros des nouveautés qui va arriver sur Mario Maker 2, donc qui est prévu sur Switch, hein, le 28 juin prochain. Ils ont fait tout un tas d'objets, je ne vais pas tous les dire, on peut noter quand même l'arrivée des pentes. C'est vrai que, bon, ça on le savait hein, qu'il y avait des pentes, mais c'est vrai qu'avant on pouvait faire que des escaliers, maintenant on peut faire des pentes, c'est incroyable. Moi, en tant que level designer expérimenté, je tiens à préciser que l'arrivée des switch on-off va être formidable, voilà. Non, mais sinon, dans le plus gros, il y a enfin les scrolling verticals qui arrivent, parce qu'on ne pouvait pas faire scrolling vertical, ce qui était chiant. On a aussi des décors alternatifs avec la lune, alors ça a l'air super cool, genre on peut renverser le niveau. En fait, pour chaque décor qu'on a, genre maison hantée, dehors, sous la neige, machin, si on a un mode alternatif. Donc, par exemple, c'est la neige, ça va glisser. Si c'est dans la maison hantée, il y aura pas du tout de lumière, ce genre de choses. Si on est dans le ciel, on sera dans l'espace, on aura une gravité modifiée. Super cool, ça rajoute encore plus de possibilités. Enfin, moi, je suis presque submergé par autant de choses qui arrivent là dans ce jeu qui n'est vraiment pas un DLC. Donc, il y a évidemment le nouveau jeu intégré Super Mario 3D World qui arrive, mais qui sera séparé des autres. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas simplement passer d'un jeu à l'autre avec Super Mario 3D World parce qu'il y a trop de nouveautés.
Donc, changement de moteur.
Ça efface tout ce que tu as fait si tu passes sur ce mode-là. Ça te prévient.
Faut savoir ça.
Non, mais j'ose espérer qu'il te prévienne. Sinon ils sont nuls en design, mais alors surtout il est rangé dans une catégorie nouveau style mais au pluriel, et il est tout seul dans la catégorie donc DLC à mon avis, et pourquoi pas hein, moi je suis plutôt pour les DLC hein, pour ce genre de choses là, enfin c'est justifié si on te rajoute un nouveau moteur de jeu, oui pourquoi pas payer 10€, 5€, j'en sais rien, mais surtout la grosse nouveauté c'est le multi en ligne. Oh là là, mais ça remet tout à plat, tu vas faire des niveaux pour multijoueur, tu peux jouer à 4 en coop, en ligne ou alors en versus, hein, c'est ouais, mais c'est fini.
Il y a un mode scénario aussi, non, qui a été confirmé,
Il y a un mode scénario avec 100 niveaux annoncés. Alors ça avait déjà été le cas dans la version 3DS qui était vraiment moins bien que la version Wii U, mais ouais, là il y a un mode story.
Il était dur la version 3DS, le mode scénario, enfin le mode prédéfini où ça t'aidait à débloquer des trucs. Les niveaux, ils étaient coton quand même.
Oui, bon.
Ah, c'est cool.
Comme un Mario en vrai.
Ils ont travaillé dessus, quoi. C'est pas un portage. On pouvait craindre juste un portage de la version Wii U et c'est pas du tout le cas en fait.
Il y a une quantité de contenu. Enfin, je suis submergé. Je ne sais pas par où commencer. Il y a trop de trucs. C'est fou, quoi. Donc, je suis très content que ça arrive et ça arrive bientôt. Très rapidement, FF7 Remake aussi qui a été annoncé lors du PlayStation Direct machin. Le jeu avait été annoncé en 2015. On n'en a plus entendu parler pendant 3 ans et demi.
C'est le fameux 3. On avait eu Shenmue 3.
Voilà, c'est le fameux 3 des déceptions. Il n'y a que The Last Guardian qui est sorti. Heureusement, il était bon. Mais là, ça y est, on a des nouvelles images. Donc, ça y est, Cloud apparemment est sorti de Chimio. Ça fait plaisir. Il a de nouveau des couleurs. Il est en bonne santé. Je pense en fait que le fait d'avoir viré en 2017 le studio qui sous-traitait en fait pour Square Enix le remake de FF7 a fait du bien au jeu, puisque vraiment les images ont l'air vraiment un peu assez enthousiasmante par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque, qui n'était pas dégueu, hein, faut être honnête, mais là ça a l'air un peu mieux. Par contre, ouais, toujours pas vraiment, enfin un peu de gameplay, mais rien de vraiment concret, mais a priori on en verra plus en juin a priori, hein, parce que c'est pas Sony, hein, c'est Square Enix je pense qu'ils montreront des images, donc tant mieux. Par contre, ça sera toujours épisodique, ça je trouve ça un peu dommage pour RPG, mais bon, peut-être, c'est peut-être un nouveau, je sais pas ce que t'en penses Camille, un FF épisodique.
Ah, moi je suis pas trop fan des jeux épisodiques déjà, donc après ça dépend si le temps est assez court, entre les différents épisodes.
Épisodique sur un jeu qui est déjà sorti en one shot,
c'est assez étrange.
Là, on est sur l'incompréhension totale.
Ouais, donc on verra.
C'est chelou. Ok, Patrick. Alors, je donne des mots clés, Alors, est-ce que cette news pouvait échapper à Silence on joue ? Moi, je dis non. Je vous donne les mots clés. Walking Dead VR.
C'est ça.
Voilà. Donc
c'est
là, on est obligé. On est obligé. C'est par contrat. Enfin, je crois que c'est l'alinéa 4 de l'article
12. Tout est dit.
Hein,
je pense que t'as à peu près dit tout ce qu'on sait sur ce fameux projet. Non, on a vu l'annonce sortir cette semaine d'un jeu qui va s'appeler The Walking Dead Onslaught, qui va arriver sur les casques de réalité virtuelle. On a un teaser qui a été publié, avec les premières images, mais c'est pas du gameplay, c'est plus une ambiance. Ce qu'on sait, c'est que ça va être très orienté sur les armes a priori et que ça va être basé sur l'univers de la série télé. C'est quand même une particularité, de reprendre l'univers et les personnages de la série télé.
J'espère.
On sait.
Ouais. Non, moi, j'ai pas vu la série télé. Donc,
je sais pas à quel point il y a des personnages qui sont exclusifs à la série télé. Je n'ai pas du tout suivi l'univers elle-même, la BD.
Bah moi, j'ai pas suivi tous les comics. Hein, donc j'ai peut-être du mal à situer.
C'est le même lore. Enfin, c'est la même trame narrative. Il y a évidemment plein de différences.
Il y a des nouveaux personnages.
Oui, voilà, je pense que tu auras quelque chose de plus photoréaliste, entre guillemets, qu'un look comics. Alors, c'est le studio Survios qui est derrière tout ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Survios, ce sont les gens qui ont fait Creed, le jeu de réalité virtuelle Creed. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, un jeu de boxe qui reprend l'univers de Creed qui est fabuleux.
Si tu nous en as pas parlé, je pense que c'est Rocky.
Enfin, donc, t'es en train de me dire que dans cette news Walking Dead VR, il y a en plus Creed.
Ouais, donc c'est pour ça que j'ai été obligé d'en parler.
Non, mais...
Donc, non, on ne sait pas trop sur le jeu en lui-même. J'imagine peut-être un mode Horde, une sorte de jeu mode Horde avec plein d'attaques et en tout cas vraiment anglais sur les armes, a priori, les différentes armes des différents protagonistes de l'univers Walking Dead. Et on sait que l'arme dans The Walking Dead, c'est un peu, c'est vital.
C'est du rail shooter, quoi.
On n'en sait pas trop. Il y a des screens, on va voir. Donc c'est plus une annonce comme ça. Une autre annonce, moi, qui m'a fait tilt cette semaine, c'est la présence de Netflix autour de l'E3. Ils seront à l'E3 lors du l'E3 Coliseum. C'est pas un détail, c'est pas rien. Je pense que c'est symbolique le fait que Netflix pose ses valises à l'E3. Je pense que c'est assez lourd de sens. On sait que Google n'y sera pas, je crois, sur Stadia. Ils ont eu leur événement avant et puis. En tout cas, on sent que ça bouge énormément. On en parle toutes les semaines, justement, des nouveaux acteurs du jeu vidéo. On sait que Netflix est bien engagé dessus sous différentes formes, que ce soit des adaptations de licences de jeux sous forme de séries, que ce soit des premières tentatives d'expériences interactives, comme on en a parlé avec Bandersnatch et d'autres choses qui sont arrivées entre deux, ou aussi de la production croisée avec Telltale. On sait qu'il y avait des projets sur The Stranger Things. Il y a un jeu Stranger Things qui arrive aussi autour de la saison 3. On sent que ces gens-là sont très intéressés par le jeu vidéo, ce qu'on peut comprendre. Alors ça marche pas toujours, Bandersnatch, moi je vous avais dit que j'avais pas trop accroché.
Pareil.
Après, j'ai envie de dire, ils ont le chéquier, ils ont le temps. Je pense qu'ils peuvent prendre le temps de travailler dessus, de rechercher. En tout cas, ils ont le canal.
Peut-être aussi que les stands coûtaient pas trop cher cette année, vu que Sony sera pas là, que tout le monde va s'en foutre, voilà.
Ils sont en conférence. Je sais pas s'ils ont un stand, faut vérifier ça. Ouais. Je sais qu'ils sont présents dans les conférences. D'accord. Il y aura certainement des annonces, ils vont sûrement montrer des choses. D'accord. Et puis allez, une petite news SAV. Alors ça, on fait parfois ce genre de news. On reprend une news il y a quelques semaines et je vous avais parlé de OnStream. Vous vous rappelez de ce service de cloud gaming dédié rétro.
Hyper trop cher.
Ah oui, on parle de $10 par mois, c'est quand même pas donné, mais bon. Ça a bien marché, je vous avais dit qu'ils avaient lancé une campagne Kickstarter qui a cartonné. Ils ont dépassé leur objectif. Je crois qu'ils ont réuni 70 000 livres via à peu près 900 contributeurs. Ce qui veut dire que donc, le Kickstarter est réussi. Ils ont même atteint le palier. Donc la PS4 rejoint le listing des plateformes qui vont recevoir ce client permettant de se connecter à ce service en ligne. Qui, donc, on rappelle, devrait avoir 400 jeux accessibles via le cloud au lancement. Et on parle de 2000 droits verrouillés qui devraient donc. De jeux qui vont rejoindre la proposition. Donc, on va entrer en Early Access fin mai.
Ils ont... Enfin, c'est pas ça, quand même. C'est pas... Enfin, Sony est d'accord ?
Bah, a priori, j'imagine, oui.
C'est chelou quand même. Sony, ils vont accepter une appli qui te balance 2000 jeux sur la PS4.
Ils sont sur PC déjà.
Ça me semble chelou.
Sur PC, sur Android aussi. Voilà.
D'accord. Ouais, mais donc, ça, c'est pas choquant. Mais la PS4, ça me semble.
Mais on joue rien, a priori.
Ok. Bien. On en est où ? On en est où ? Le com des coms de la semaine dernière. Le com des coms de la semaine. Il y a deux semaines, d'ailleurs. Petit débat autour de Days Gone qui n'a pas forcément fait l'unanimité dans cette émission. Avec Patrick, toi qui a défendu la vision de Days Gone. Red est d'accord avec toi. Selon moi, la référence ultime de Days Gone, et il en comporte beaucoup, c'est le Mad Max d'Avalanche avec qui il partage la structure et les défauts de répétitivité. Et non, The Last of Us. Perso, il m'a réconcilié avec les open world après Red Dead Redemption 2, décevant. Et je trouve que vous n'avez pas parlé des bons points du titre, notamment l'acting, la flip devant la horde et l'ambiance qui tient le joueur. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Mais ce n'est pas beauf ni viriliste, c'est l'Oregon rempli de bikers et de zombies. Ouais, c'est quand même un peu viriliste, hein. Mm-hmm. Un poil, hein, quand même. Kirby, qui lui répond, parce qu'il y a des débats dans les forums de Science en Rue, c'est ça qui est formidable, et en plus, les gens ne s'insultent pas, enfin, généralement, ils ne s'insultent pas trop. Hein, cher modérateur du...
Il y a un bon esprit, voilà.
Kirby qui répond, Days Gone, c'est l'anti-hype par excellence, la seule chose qui peut être plus chiante et générique qu'un jeu de zombies, un genre qui n'en finit plus de ne pas vouloir mourir. En 2019, c'est un open world de zombies. C'est le degré zéro de l'inventivité et de la prise de risque. Même Far Cry n'a pas osé s'y aventurer. Alors Red lui répond qu'il y a quand même un Far Cry, un DLC, je ne sais plus comment il s'appelle, de Far Cry qui, où il y avait des zombies. Et Red lui répond, personne n'a dit que c'était original, c'est clair, mais ça n'empêche pas d'être un bon jeu. Encore faut-il y jouer pour le savoir. Quant à la hype aux zombies, on revoit ça vers GTFO, Dying Light 2, The Last of Us 2 ou New World. Maintenant qu'on vient de quitter Metro Exodus, Passway ou World War Z. Donc c'est vrai qu'il y a quand même... beaucoup de zombies dans les jeux vidéo.
Même Red Dead Redemption, le premier, il est arrivé avec un mode zombie.
Ce que j'avais détesté.
Le jeu ultime, quoi.
Le DLC.
J'avais détesté ce DLC de Red Dead.
Ouais, il était bien interçu pourtant.
Hein, ouais, mais moi, je sais pas, j'avais pas pu. Je n'avais pas pu. Eh bien, c'est le moment de commencer, à parler de jeux vidéo. On va commencer par. On avait parlé il y a deux semaines c'est pas du remake, c'est du
remaster.
Du portage, voilà, du remaster. Merci. Portage du remaster de Final Fantasy X et X-2 sur Switch. Mais aux côtés de ces deux jeux, il y a un nouveau portage, peut-être plus intéressant. On va en parler, c'est Final Fantasy XII, The Zodiac Age.
Is this your idea of vengeance?
It is my idea of necessity.
Princess, you have been chosen.
This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so.
The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war?
The Resistance fights their battle well. We dare not fail them. We dare not falter.
Alors, Camille, après les doutes qui t'entouraient, parce que sur Final Fantasy X, t'avais pas été...
J'ai été déçue parce que c'est un jeu que je portais dans mon cœur et j'ai constaté qu'il avait très mal vieilli. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti.
Et il avait 20 ans, Final Fantasy X.
Non, il a 12 ans.
Non, le 10.
Ah non, le 10, il a une vingtaine d'années, pas loin. Il est 2001, je crois.
Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, oh là là, mon Dieu, que le temps passe vite.
D'ailleurs, moi, j'ai relancé entre deux et j'avoue que je sens que je développe une vraie nostalgie pour la PS2, en fait, pour ce look. Alors, c'est vrai que je suis d'accord sur le personnage, est assez énervant, hein, le héros de FF10. Ouais. Après, je trouve qu'il y a un look très particulier FF2 avec un style très marqué visuellement. Et je commence à une vraie nostalgie pour ce qu'on trouvait très beau à l'époque et qui a pris une patine. Et le jeu est très coloré.
Je pensais que les polygones allaient nous sauver de.
J'en suis rendu compte. Je te coupe, hein, mais je m'en suis rendu compte en lançant le disque. Je n'étais pas complètement insensible à une vraie nostalgie sur ce look. En plus, il est ultra coloré. Le visuel est très. Ouais, moi j'avoue que ça m'a un peu remué de le lancer. Et c'est vrai que 20 ans, c'est pas rien, ça commence à dater. Et je pense qu'il y a une vraie patine rétro à ces jeux-là maintenant.
Et celui-là, il est plus récent, donc le 12, forcément, c'est mars 2006.
Et oui, alors du coup, moi à l'époque, quand il est sorti sur PS2, je l'attendais un peu comme le Messie, parce qu'après FF10-2, j'ai pris une claque et je me suis dit s'il vous plaît, faites quelque chose, refaites un Final Fantasy, s'il vous plaît. Et en fait, du coup, j'avais beaucoup d'attentes et je pense que j'avais trop d'attentes. Et du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans et j'ai fait les trois quarts, je crois, mais je me suis ennuyée. Enfin, c'était une grosse déception.
À l'époque,
oui, sur PS2. Et en fait, les années ont passé et je me suis dit, bon, ce serait bien quand même qu'un jour je leur donne sa chance, que dans d'autres circonstances, que je l'accepte. Et en fait, du coup, en 2017, il y a eu un premier remaster qui est sorti sur PS4 puis sur PC. J'ai pas craqué. Et là, il est sorti sur Switch, donc qui dit Switch dit craquage total.
But on Switch.
Donc voilà. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, j'en attends pas trop, je me lance, je vais essayer de vivre une aventure et on va voir. Et en fait, pour le moment, je suis plutôt ravie.
C'est vrai.
Plutôt ravie, ouais, je suis plutôt emballée par l'univers et par
L'histoire. C'est ça.
D'ailleurs, désolée. Pour en parler rapidement, donc du coup, c'est un royaume qui est tombé aux mains d'un empire surpuissant. Et quand on commence à jouer dans la ville, on sent tout de suite qu'on est dans un monde un peu déchu, nostalgique de sa gloire passée, mais aussi résigné, désespéré pour la majorité de la population. Mais il réside quand même un espoir avec une résistance qui se met en place. Et on a envie, aux côtés de ces personnages, que ça marche, on a envie que ça avance, et voilà. Mais bon, je ne spoil pas, je m'arrête là pour l'histoire, mais je vais plutôt me recentrer sur le portage, parce qu'en fait, ce portage, il apporte plein de bonnes nouvelles.
Ouais.
Par exemple, déjà, on peut choisir les voix japonaises, et ça, c'est quand même plutôt pas mal.
Parce que ce Final Fantasy XII, si on se souvient bien, si on le remet aussi dans le contexte, c'était le Final Fantasy, le 11, c'était en ligne. Le 13, il n'a jamais existé.
Exact.
Et donc, si, le 13-2, 13-3, ils n'étaient pas si mauvais.
Je parle du 13.
Mais je sais, mais en vrai, si tu regardes les univers de Final Fantasy qui fonctionnent, enfin, le comptage des Final Fantasy, voilà, dans l'univers du 13, finalement, on peut quand même retenir que le 13 aura permis le 13-2 et le Lightning Returns, ce qui n'était pas si mauvais, tu vois.
C'est vrai. Mais c'est vrai.
À la fin, elle finit dans une gare SNCF, Lightning. Vraie histoire, allez voir. Il y a même des gens qui sont allés voir le modèle de train et tout, elle finit dans une gare de la région parisienne.
Mais donc, en fait, aussi, sur ce portage Switch, il y a aussi pas mal de nouvelles fonctionnalités.
Oui, par exemple, tu peux accélérer la vitesse de tes personnages, donc pour pexer rapidement, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, avec ça, tu as les gambits qui te permettent du coup de leur assigner à chacun des actions prédéfinies. Et si il y a un côté un peu stratégique où il faut que tu réfléchisses un peu qui va faire quoi, essayer d'avoir une équipe plutôt équilibrée. Et du coup, une fois que tu as bien préparé ton truc, tu avances vite. Bon, après, c'est un peu rigolo de les voir avancer super vite. Tu te dis, mais ouais. La première fois j'étais un peu surprise, je me suis dit waouh! Et en fait, c'est une bénédiction quoi.
Et ça, c'est une nouveauté Switch.
Ouais, mais du coup, ça change un peu le rythme du jeu d'origine. Enfin, ça
oui,
modifie
totalement.
La façon de le parcourir. Enfin...
Oui, mais bon, tu l'utilises vraiment que pour les combats et le reste du temps, c'est. Ça te permet aussi d'avoir des moments un peu d'action rapide et d'autres moments où tu es plus dans la contemplation et dans le.
Il a un pacing, il a un timing assez lent, ça, sur les combats, le 12.
En plus, quand après, tu as appuyé sur L1, cette touche magique qui te permet d'aller vite, après, tu repasses en temps normal, pendant les combats, tu dis ah, bien, ça va pas si vite. Au final, c'est vraiment un point excellent qu'ils ont rajouté. Là.
Parce que les animations dans les combats de Final Fantasy, il faut savoir que depuis très très longtemps, c'est le moment où, au début, c'est cool parce que tu vois les nouvelles animations, les nouveaux monstres qui arrivent, les nouveaux trucs comme ça.
Et tu as aussi des sauvegardes rapides qui se font automatiques et ça peut être assez cool quand tu.
Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est Final Fantasy émulation, édition, un petit peu. Quand on joue en émulateur, c'est ce qu'on fait.
Oui,
on fait
sûr.
Des save states, on accélère le rythme parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et je trouve que c'est un peu une des meilleures façons de consommer du jeu vidéo à l'ancienne.
À l'ancienne, mais aujourd'hui, quoi, en fait.
Diluait sa durée de vie, en fait, en mettant des animations longues, en mettant.
Du coup, c'est une expérience qui est plutôt pas mal en 2019.
D'accélérer le rythme.
Mais t'es pas obligé. Enfin,
non, mais d'accord, mais.
C'est toi qui choisis.
Je trouve que. Tu parles.
Par exemple, pour les boss, j'enlève le mode rapide.
T'as pas trop le choix, j'imagine. Mais tu vois, je trouve que même les pauses, les lenteurs d'un jeu, ça fait partie de son ADN, de son histoire, de son. Pour moi, c'est ce qu'il était. Et tu vois, sur le 10 là, que je suis en train de refaire, t'as ces moments avec les pauses qui sont reprises à chaque combat, mais je trouve que ça fait partie de son charme de l'époque aussi.
Ouais, mais t'as déjà pas mal de pauses dans les animations, dans les séquences cinématiques, tout ça. Donc c'est plutôt sympa d'avoir plusieurs rythmes.
Puis à l'époque, t'étais ado, t'avais le temps de te farcir 80 heures de jeu.
J'ai pexé pendant 4 heures.
Ouais, c'est ça.
Je vais te dire un truc, chaque nouveau Pokémon, je laisse les animations 5 minutes, puis après, je les enlève, les animations d'attaque, parce que c'est long, ça prend du temps, mine de rien.
Oui, c'est clair.
Patrick regrette qu'on puisse pas rajouter les loading screens de l'époque aussi.
Ah, ne me parle pas, ne me lance pas sur les loading screens.
C'est bon ça.
Parce que j'ai connu l'âge d'or où les loading screens étaient le plus beau moment d'un jeu. Quoi.
Non, hein, Patrick,
ça prenait 20 minutes pour s'afficher à l'écran. Bon, on va pas se lancer là-dedans.
Puis on est sur Switch, donc on n'est pas sur PS4 ou Xbox One ou PC. Donc le jeu est très fluide.
Ouais.
Mais par contre, on voit que les graphismes sont un petit peu réduits par rapport aux autres versions.
D'accord, par rapport aux upgrades qu'il y avait eu avant sur les versions PS4 et PC, on en est un peu.
Mais bon,
mais ce truc,
vive la fluidité.
Et du coup, au niveau écriture, parce que c'est vrai que tu avais parlé de l'écriture du 10 qui est un peu légère, c'est que le personnage, le héros est un peu lourd.
Alors oui, mais dans le 10, c'est pas les personnages, c'est vraiment l'univers.
C'est l'écriture,
c'est les idées qui sont. Enfin, c'est quand même profond. Le scénario est quand même profond dans le 10, mais. C'est ce qu'il y a au-dessus qui est gênant. Là, on a là, c'est bien écrit.
Ouais.
C'est bien écrit, il y a plein d'inspirations géniales et la première inspiration c'est Star Wars quoi. Enfin clairement dans les musiques, dans les décors, dans les personnages, dans cet empire qui veut s'emparer de toutes les terres. Enfin il y a vraiment quelque chose de, enfin puis surtout les musiques en fait c'est dingue quoi. Surtout en version remasterisée ça.
Eh bien, écoute, tu m'as donné envie parce que moi, j'étais passé totalement à côté de ce Final Fantasy.
Ouais,
à
bah franchement, là, j'en suis à 15-20 heures.
Tu as des enfants, tu n'auras pas le temps.
Mais si, si t'appuies sur L1, ça va vite. Et puis ça va. Ah oui.
J'ai le droit j'ai le droit d'espérer.
T'as le droit de rêver.
J'ai le droit de rêver, s'il te plaît, Corentin.
C'est vrai.
Zut alors.
Bon, quand ils seront grands, alors, tu pourras y jouer enfin.
Alors, après justement ce scénario bien écrit, après cette épopée dramatique avec des musiques intéressantes et des personnages intéressants, allons de l'autre côté. Le côté obscur du jeu vidéo. Et on va parler de Mortal Kombat 11.
Le passé et le futur seraient-ils entrés en collision? Seul Kronika a la puissance.
Je compte jusqu'au début de l'histoire. Que le nouvel âge commence.
Alors voilà, je vous explique. Donc c'est le non Patrick ne veut pas me croire, mais si c'est le trailer du jeu Mortal
D'accord,
Kombat 11.
Ouais, okay, ah oui, non. La musique du film. Okay.
Voilà, donc oui. C'est...
Super musique.
Super musique. Alors Mortal Kombat 11, il faut bien savoir que c'est un Mortal Kombat qui arrive avec après 10 autres Mortal Kombat. Hein.
Oh oui, puis oui. D'autres, il y a des spin-offs, il y a plein de choses.
Sachant que un peu à la manière de plein de, enfin voilà, il y a un vrai lore.
Ah oui.
Et c'est ça qu'on découvre aussi, enfin qu'on redécouvre à chaque fois, un peu éberlué. Alors bon, il faut quand même parler, parce que si on parlait d'un Mortal Kombat, on pourrait parler du système de jeu, parce qu'on sait que c'est un jeu de combat, on pourrait parler des modes de combo,
va à l'essentiel, Erwan, on sait où tu
vas. Mais un Mortal Kombat, on joue pourquoi un Mortal Kombat?
Le mode scénario,
évidemment,
bien sûr.
Évidemment, on joue à Mortal Kombat pour le mode scénario.
Évidemment.
Donc là, qu'est-ce qui se passe
on s'assoit dans le canapé et puis on se prend un truc à boire et puis on se régale. C'est un vrai régal ce mode scénario. Moi je Alors je pense que je pense que quiconque a une certaine affinité pour les films de série Z, tu ne peux que craquer devant un truc comme ça. Bah je pense vraiment, et là je pense que ce 11, mais je crois qu'on avait déjà parlé du 10, on avait déjà parlé de On avait parlé du versus DC qu'on avait fait ensemble à l'époque, dans une soirée mémorable. Mais non, le mode scénario, c'est important parce que je pense que c'est là où vraiment le jeu pose son postulat de trucs complètement barrés, qui assume complètement. Alors là, en fait, il te lance. Tu commences. D'ailleurs, c'est trash dès le début. Hein, y a un côté gore sans demi-mesure. C'est-à-dire que les premiers plans, c'est un mec qui se fait décapiter la tête.
Ouais, c'est pas Kirby, hein, Patrick.
Ah non, mais là, je trouve qu'ils vont assez loin. C'est ce que j'aime aussi dans cette série, c'est qu'elle pousse tous les curseurs au maximum. Quoi. C'est qu'on est dans le gore, on est dans le côté complètement décérébré. Et puis moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est dans du nanar, mais qui s'assume complètement. C'est-à-dire quand tu lances le mode scénario, tu es dans un jeu qui essaie même plus de forcément d'être cohérent avec ce qu'il y a eu avant. Non, il part dans un truc complètement.
Alors moi,
complètement
j'ai l'impression qu'ils sont quand même cohérents dans leur
avec eux-mêmes, oui, avec leur propre logique.
Alors parce
bien,
qu'il y a,
bien
y a,
eux.
Mais Mortal Kombat, c'est un truc que tu ne comprends rien. C'est qu'il y a le Royaume Terre, il y a le Netherworld,
Netherrealm,
il y a les dieux anciens, il y a l'Outer World, il y a le.
C'est très Lovecraftien peut-être.
Il y a surtout Christophe Lambert. Mais ça fait plaisir.
Il y a Raiden, mais pas dans les jeux.
Il a pas le physique de Lambert.
Dans la pub pour Mortal Kombat 11, ils ont ramené Christophe Lambert.
Bien sûr.
C'est vrai,
il a pas vu.
Genre, il y a un type qui se fait ruiner par un Raiden. Et genre la caméra des zooms, en fait, c'est Christophe Lambert qui rigole.
Mais c'est magique, c'est génial.
Voilà.
Et donc oui, non, un scénario qui est complètement. En fait, ça se présente presque comme un film interactif quasiment. C'est-à-dire que la campagne scénario de ce Mortal Kombat et déjà des précédents, c'est une sorte de film interactif. Alors c'est pas un tel, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais t'es dans un scénario bon, vraiment de la série Z absolue avec des. J'ai noté quelques sorties
vas-y,
en VF. Je le recommande en VF.
Ah
parce
bah oui,
que
bien sûr.
Ça apporte encore, ça ajoute à ce côté nanar qui qui pousse les curseurs. Moi, j'ai noté, c'est dans les premiers moments, je dois botter le cul de mon commandant. Je cite un texto, c'est dès la première mais scène, oui, le là, premier mais... combat qui est introduit comme ça un peu au chausse-pied.
Ouais, mais là, tu vois, tu te moques un peu facilement.
Non, je me moque pas du tout parce que j'adore ça, moi, je trouve.
C'est quand même une réplique parce que moi, je l'ai fait aussi. Hein. C'est une mère envers sa fille.
Ouais.
Tu vois, c'est...
Oui. C'est vrai, quand tu resitues un petit peu.
Voilà, tu resitues, c'est la fille de
Cage, ouais, enfin, de Johnny Cage et Sonya. Et c'est, enfin, voilà, y a, encore une fois, il y a toute une mythologie autour de Mortal Kombat, des personnages ouais. qu'on a vu évoluer, etc.
Alors, je vous rassure, hein, je fais un petit aparté, je te redonne la parole.
Ah,
tout
bien
suite.
Sûr, oh, non.
N'ayez pas peur si vous ne vous souvenez pas des 10
c'est
épisodes
pas grave
précédents.
Du tout.
Ce n'est pas grave.
Ah, c'est pas grave.
On peut se lancer à corps perdu dans ce Mortal
Kombat. Moi, je pense
au
contraire, il faut même le prendre comme ça. Je pense qu'il ne faut pas forcément essayer de raccrocher à tout prix les wagons. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose, de toute façon. Ça se savoure dans l'instant, hein, Mortal Kombat, et notamment dans le mode scénario, en dehors évidemment du jeu de combat, parce que c'est quand même ça l'ADN. Hein, mais ce mode scénario, bah, encore une fois, c'est presque du film interactif. Tu as des moments où tu dois choisir. Tu suis des binômes de personnages, tu vois, avec des univers comme ça, des histoires qui se découpent autour de couples de personnages. Et hop, on va switcher d'un personnage à l'autre. On choisit lequel on va incarner sur une séquence. Donc, il y a un scénario comme ça. On n'est pas chez Telltale, on n'est pas sur le jeu d'aventure. Mais c'est assez fascinant d'avoir ce film nanar qui se déroule comme ça sur plusieurs heures. Alors, et qui vraiment développe tout un argument. C'est assez ronflant. On sent qu'il y a tout un univers derrière.
Mais si on a fait le 10, parce que moi j'ai la version collector du 10.
La XL, c'est ça, non, avec tous les persos.
Si on a fait le 10, qu'est-ce que ça apporte le 11?
Bah, la suite de l'histoire. La suite du scénario.
Non, mais. Moi, je vais te dire un truc. Parce
moi,
que
je comprends son bug, hein, je comprends totalement.
Parce que le 10, il m'avait en fait, je sais pas, ça m'avait frustré, ça m'avait un peu donné le sentiment comme si j'avais sorti mes vieux G.I. Joe, mes Big Jim, mes maîtres de l'univers, et j'essayais de leur faire, tu vois, de les faire se battre ensemble, et ben voilà quoi, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, et ça fonctionne pas avec mes jouets, et je suis frustré de pas avoir le plaisir d'avant.
T'as pas gardé tes maîtres de l'univers, toi?
Mais si, je les ai, mais quand je joue, j'arrive pas à avoir de plaisir, parce que j'ai pu, tu vois,
et pourtant là c'est à fond parce qu'en fait là ils ont beaucoup travaillé sur la personnalité des personnages, genre la modification, tu peux les personnifier un maximum, tu vois, tu changes
le pas ça
soleil
dans
de
facile, enfin, si, il y avait ça,
tu as des milliards de, tu vois, de paramètres de personnalisation des personnages. Donc ça va complètement dans cette idée que tu as exactement. Moi, je pensais au maître de l'univers en jouant, j'arrêtais pas de me dire mais c'est ça, c'est ces personnages où tu changeais les accessoires, etc. Alors, il y a un vrai rapport
il faut quand même qu'on soit tous d'accord sur un truc, ces gens là à Netherrealm,
oui.
Ils ont beaucoup trop d'argent.
Ah bah ils font plaisir, ouais.
Ah non, mais ils ont beaucoup trop de pognon, hein. Il faut leur en enlever, hein.
Mais non,
les mecs, ils font des... Non, mais après, on va parler de Life is Strange, par exemple, tu vois. T'as juste l'impression que dans une scène de combat qui ne sert à rien de Mortal Kombat, il y a le budget d'un épisode entier de Life is Strange.
Alors,
ils ont beaucoup trop de pognon. Même là, pour le coup, le travail sur les visages... Il est
super
ouf.
Il faut juste
c'est le même moteur que Injustice 2, non?
Oui, ouais,
ça avait déjà été remarqué même, pour ses animations faciales. Hein.
Alors, à condition d'adhérer à la charte graphique, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est très marqué, c'est très américain, c'est un look très très particulier, très maître de l'univers, très flashy, très.
Kitch.
Mais si tu aimes ça, voilà, si tu adhères à cette proposition, il est super beau. Enfin, moi, j'ai joué sur PS4, il est magnifique. Les décors, t'as des animations dans tous les sens. Mais et c'est vrai qu'il y a une finition, même dans les animations. Et encore une fois, t'as une vraie, c'est un jeu qui est très, très riche en termes de contenu, d'animation, de choses à débloquer, etc. Tu sens qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis moi, il y a le petit twist. Tu disais qu'est-ce qu'il apporte le 11 par rapport au 10. Moi, ce qui m'a fait craquer, c'est ce truc presque, cette dimension presque méta du jeu qui te, sous un prétexte de scénario, qui fait revenir via une déesse du temps qui fait interagir les personnages de Mortal Kombat de 2019 avec ceux d'il y a 25 ans. Donc t'as Johnny Cage des années 90 qui débarque, qui se retrouve avec son double Johnny Cage d'aujourd'hui. Donc t'as plein de gags avec ça. Et mine de rien, ça marche plutôt bien. Et moi, ça m'a parlé, tu vois, parce que je pense que c'est une série qui s'adresse quand même à des gens qui, je pense, ont quand même pas mal suivi son histoire et du coup, ça m'a vachement parlé ce côté. T'as plein de gags là-dessus sur bah lui là le perso des années 90. J'ai noté à un moment, t'as Johnny Cage qui dit à son ennemi retourne en 95 toi. Enfin, tu vois, c'est presque méta. C'est une série qui se regarde elle-même, qui regarde ses 25 ans d'histoire, tu vois, qui cite T'as le look un peu exagéré des personnages des années 90, tu vois, avec ce clash des visuels et qui joue vachement là-dessus. Et ça marche plutôt bien. T'as pas mal de gags là-dessus sur le vieillissement de personnages, le vieillissement peut-être d'une série aussi qui se regarde elle-même, qui regarde ces décennies qui sont passées. Et moi, j'ai trouvé ça marrant, tu vois, c'est cette saga qui a traversé quand même les décennies, les plateformes, l'arcade, les consoles, et qui s'en amuse. Et en fait, voilà, ça, je trouve que c'est assez raccord avec une... Finalement, moi, c'est peut-être la force, et je conclue là-dessus, c'est un jeu qui se prend jamais au sérieux, en fait. Il y a un lore qui est assez riche, et qui, en même temps, tu sens que voilà, les mecs s'amusent, quoi.
Mais le truc qui est toujours étonnant, et je me répète, c'est ce qui est très étonnant, c'est l'aspect super production. C'est dingo. Oui, moi, parce que j'ai une passion un peu coupable, un peu sale, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est les modes histoire des jeux de combat. J'adore.
C'est super important.
Un fan absolu des modes histoire des jeux de combat.
Même les Tekken et tout ça.
Mais oui, bien sûr.
Je comprends.
Par exemple, il y a quelques semaines de ça, à peine quelques semaines de ça, j'ai fait un jeu, on n'en a même pas parlé ici. C'est Dead or Alive 6. Dead or Alive 6 qui est sorti, hein, vous ne le saviez pas.
Il y avait une gêne, je crois que tu voulais en parler, on va en parler.
Pourquoi j'allais en parler? Je me suis dit, je vais attendre Mortal Kombat 11. Ouais. Tu vois, on fait une sorte de compile comme ça. Et surtout que, en fait, le jeu Dead or Alive ne m'intéressait pas du tout au-delà de son mode scénario. En fait. Du coup, j'ai fait l'histoire. Alors, c'est le bordel. Hein. Dead or Alive, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose autour de.
Les spin-offs, tout ça.
Et puis, en plus, grosso modo, c'est les mêmes histoires. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont scénarisé, un peu comme Street Fighter et ce genre de choses, ils ont essayé de scénariser une arène de combat, ce qui est un peu compliqué.
C'est un exercice de style.
Le Dead or Alive, ça va dans le côté un peu ninja plus technologie, en fait. C'est une sorte de c'est un combat un peu entre la modernité et la tradition, hein, finalement. Dead or Alive, hein, c'est un peu ça.
C'est que cette expression a été interdite en 1998
par un décret.
Excusez-moi, c'était un peu volontaire. Je n'ai pas dit que c'était un pays à mi-chemin.
Oui, je vois bien ce que tu essayes de faire.
Donc le scénario de Dead or Alive 6 est un peu c'est un peu le même niveau un peu de scénario. Sauf que c'est finalement il y a ce côté un peu ils n'ont pas autant d'argent. Ils n'ont pas autant de moyens. Enfin, Dead or Alive 6, tu vois, par exemple, les scènes se passent dans les arènes, pratiquement. Enfin, il y a très peu de budget qui est alloué au décor au-delà de ce qui resserre pour le combat.
En même temps, les Mortal Kombat se vendent par camion. Hein. Enfin, je sais plus, j'avais vu passer les chiffres des derniers. C'est des grosses ventes, quoi. Ça marche très bien.
Mais ma question, c'est dans cette histoire, dans ce mode scénario, il n'y a pas des moments où tu t'es dit, ils ont trop d'argent?
Non, je l'ai pas vu comme ça. Non, je me suis dit, moi j'applaudissais parfois en me disant les mecs, ils y vont quoi. Enfin, tu vois, ils se posent pas de questions.
La scène du Colisée avec Total Kahn, Shao Kahn, quand ils reviennent, il y a du public dans le Colisée. Ils ont animé les gens.
Non, mais c'est généreux quoi.
Ils ont animé le public. Il y a 45 combattants.
Une sorte de péplum.
C'est ça.
Ouais, kitsch.
Mais t'as l'impression que.
Ça brûle la rétine.
Et t'as l'impression que dans cette scène, il y a plus de budget qu'un épisode de Life is Strange, quoi. C'est dingue.
J'ai envie de dire, t'en as pour ton argent, quoi. T'as vraiment quelque chose qui va, franchement. Après, manette en main, moi, c'est vrai qu'en jouant, c'est toujours un peu raide, hein, Mortal Kombat, depuis toujours, hein, depuis les années 90, il y a ce côté un peu raide. Ils ont bien, je trouve qu'ils ont progressé, hein, depuis le 10, déjà le 10, il y avait pas mal d'avancées. C'est une série, quand tu la revois, elle a toute une histoire, hein, il y a des vraies ruptures, le passage à la 3D, il y a eu le Deadly Alliance, je crois, de 2000... J'ai plus la date, hein, mais il y a eu des ruptures dans la série. Ça reste raide, mais je trouve qu'ils ont vraiment amélioré les systèmes de combat. Alors là, il y a le Fatal Blow, où quand tu es vraiment en difficulté, en fin de barre de vie, tu peux défoncer si tu sors la bonne prise.
Ça, c'est récupéré d'Injustice, en fait.
Ça sort de d'Injustice. Alors, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est un peu punitif, quand même. Je trouve que quand tu la sors, tu exploses vraiment l'adversaire.
Sauf que t'en as que un par combat.
Ça s'appelle, s'appelle une mécanique de comeback. Ça existe dans beaucoup d'autres combats.
Mais je la trouve vraiment violente. Je trouve qu'elle est vraiment...
On peut toujours finir le jeu avec coup de pied sauté, balayette, coup de pied sauté, balayette. Bien sûr.
C'est aussi la force de Mortal Kombat, c'est que c'est facile d'y entrer, en fait. Tu rentres facilement dans Mortal Kombat, même si tu connais pas la série, comme tu disais, Erwan, tu connais pas le scénario, tu connais pas les. Tu rentres en 5 minutes, tu peux t'amuser parce que il y a un côté spectaculaire aussi. Il y a une mise en scène. scène dans, dans la présentation des personnages, etc. Et ça marche bien.
Du coup, on peut dire que c'est un peu cohérent avec les ambitions. Hein, voilà. Ils servent un produit. Il y a pas mensonge. Hein,
mais au fond de moi, j'espère toujours qu'un jour ils vont revenir à la digitalisation. Ça me manque toujours Mortal Kombat sans acteur digitalisé, tout ça. La 3D, c'est très.
Après, voilà, on vous prévient quand même en termes de gore, on est dans le sur-gore, un peu dans la lignée des injustices de MK10 qui avait mis ça avec les modes rayon X où on voit les os se fracturer. Ce genre de choses.
Il y a toujours des détails là, quand tu sors justement une prise.
On est dans l'excès et on est dans le un peu dans,
mais
dans
cartoon
le,
presque
dans le ridicule.
Presque
hein, mais
cartoon.
Voilà.
Ouais.
C'est le moment. Attends, il faut que je le fasse. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique jeux de société. Il est là, il est et juste voilà. À côté. C'est formidable. Bonjour Jérémy.
Salut Erwan. Alors,
tu n'es donc pas unir.
Ah voilà, ça commence déjà, on m'interrompt, je savais que ça irait. Non, il n'y a pas de souci. En fait, là, j'ai ramené un petit jeu. Je me suis dit, comme tu avais aimé beaucoup The Mind, le même auteur, il a fait un autre jeu qui s'appelle Illusion. Et je l'ai ramené ici, on va y jouer en temps réel. Et je vais vous expliquer les règles au moment où on va y jouer. Et j'espère bien que les auditeurs vont bien comprendre aussi, parce que c'est assez simple. Donc, on a un deck de cartes, c'est uniquement des cartes, comme The Mind.
C'est très coloré.
C'est très très coloré, je vais justement expliquer pourquoi. On a 12 cartes de flèches. En fait, il y a 3 flèches de chaque couleur, bleu, jaune, rouge et vert. Et le premier joueur va ouvrir l'une de ces cartes. Okay, donc là, on a une flèche rouge qui va qui part de moi et qui va jusqu'à Patrick. Mm-hmm. Et chaque joueur, et on va commencer par Erwan. Erwan, tu vas commencer à jouer, donc c'est toi qui as ouvert cette flèche.
Oula.
Et tu vas poser la première carte.
Je pose la première carte.
Tu apprends la carte, mais tu ne regardes pas évidemment sous cette carte quand tu la poses. Moi, je suis le second joueur. Alors, sur ces cartes-là, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver en fait des illustrations qui sont composées de ces 4 couleurs, donc avec un fond blanc. Uh-huh. Et là, on voit des cylindres, on peut voir des tartans, on peut voir des bulles, des cœurs imbriqués, des textes.
C'est assez abstrait. Hein.
Celle que je viens de poser, par exemple, il y a des cylindres en hauteur. Donc, il y a un gros cylindre
vert.
Une forêt de cylindres.
Et donc, en fait, moi, je suis le joueur qui va, dans le sens d'aiguillement, jouer après toi. Et je vais prendre la carte suivante en haut donc, du paquet de cartes. Et je vais devoir décider, comme c'est la flèche est rouge, s'il y a plus de rouge sur la carte suivante. Que la première carte qui a été posée.
What?
Et donc là, je dois, par exemple, je regarde, je compare, je dis bien sur cette nouvelle carte, il me semble qu'il y a un peu plus de rouge, donc je la mets après. Donc, Corentin, à ton tour, tu vas choisir une carte,
d'accord.
Tu vas prendre celle-ci, donc,
en fait,
tu vas choisir.
Donc en fait, ta flèche indique l'ordre croissant, en fait.
L'ordre croissant. Donc là, je te laisse choisir, là, tu as la prochaine carte, ce sont des espèces de ronds concentriques, comme ça. Tu vas la mettre ou avant ou
c'est
après.
C'est le nombre d'éléments ou c'est la surface?
C'est la surface.
Oh, dur.
Ou entre les deux.
Je les mettrai entre les deux, moi.
Peut-être tu
les
mets entre les deux. Ouais. Voilà. Donc maintenant, à ton tour. Camille, alors ce que je te propose de faire, c'est maintenant, parce qu'on va aller expliquer les règles. Toi, tu auras l'opportunité, donc c'était déjà mon cas, mais de l'opportunité de challenger, de dire bah non, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. D'ailleurs, c'était pas forcément Corentin, ça peut être avant. Et à ce moment-là, tu vas dire, au lieu de dire de poser ta propre carte, tu vas dire eh ben non, il y a un challenge. Et dans ce cas-là, alors évidemment, il peut y avoir 5, 10 cartes même, avant que quelqu'un fasse un challenge. En général, ça n'arrive pas aussi loin. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner les cartes qui sont posées dans l'ordre croissant. Et à leur dos, il y a les pourcentages de chacune des 4 couleurs.
Oh,
et donc, la première a 13% de rouge, la seconde a 25% de rouge et la troisième a 18% de rouge. Et donc, tu as gagné cette carte, une des 12 cartes flèches.
D'accord.
Tu as un point. C'est et Corentin, tu aurais eu en fait cette carte flèche si il n'y avait pas eu d'erreur.
Oui. J'avais été challengé à tort en fait.
Ouais, mais c'est pas forcément toi qui aurais fait l'erreur, mais le fait que tu n'es pas challengé.
Bah, si elle avait dit que c'était cette carte-là qui avait une erreur.
Tu dis juste,
il y a une erreur.
Il y a une erreur. Si l'erreur, c'est toi qui aurait pu challenger le joueur d'avant.
Ouais.
Et le fait que tu n'aies pas pris cette opportunité alors qu'il y avait une erreur avant toi, tu n'as pas le point.
Donc c'est le joueur précédent sur un challenge raté qui remporte le point.
Exactement.
Systématiquement.
Mais c'est tout à fait logique. Et donc c'est un petit jeu très simple, vraiment très très rapide,
étonnant,
qui s'appelle donc Illusion, qui est donc par l'auteur Wolfgang Warch, qui est donc l'auteur aussi de The Mind, dans la même boîte, par le même éditeur. C'est de 2 à 5 joueurs, mais bon, vous pouvez faire en fait un peu plus de joueurs, vous pouvez vous éclater.
J'ai le sentiment que c'est bien. Assez facile d'augmenter le nombre de joueurs sans que ça soit un
peu plus.
En rajoutant un autre jeu.
Bon, écoutez, à la semaine prochaine, silence en jeu, c'est fini.
C'est simple, c'est un jeu, bon, les parties ça peut durer 10-15 minutes, c'est à partir de 8 ans, alors c'est super. Parce que dessus, bon, il n'y a pas de texte évidemment, mais il y a des pourcentages. Et pour les enfants de 8 ans qui doivent pouvoir avoir des notions de pourcentage, c'est excellent. Tu expliques qu'est-ce que c'est que 10%, 20%, 30% de la carte. Voilà.
Trop
donc
bien.
C'était Illusion. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Ouais.
Merci. Merci, Jérémy.
Donc, l'éditeur, quand même, NSV.
Et c'est en, parce que, alors, la boîte, elle est en allemand. Est-ce alors que là, ça sort, elle est en allemand. C'est sorti en français.
Alors, y a une version française, mais bon, moi, c'est comme The Mine. Hein, je l'avais acheté à Essen à l'époque. Ouais. Donc, moi, j'ai une version en allemand. Mais franchement, ces jeux-là, il n'y a pas de texte sur les cartes. Bah donc, oui. Même si vous le trouvez sur eBay, dans n'importe quelle langue, vous en foutez. C'est-à-dire sur Board Game Geek, sur le site, vous avez les règles de tous les jeux. Tous les éditeurs vont monter les règles dans toutes les langues de tous les jeux. Donc, vous pouvez toujours avoir une règle en français de n'importe quel jeu.
Ça a l'air très simple. Moi, j'ai compris du premier coup, ce qui est rare, moi, sur un jeu. Ouais. L'âge, ouais. Pourquoi, et c'est puis, très visuel, très... Et elles sont jolies, vous ne les voyez pas à l'audio, mais elles sont jolies, les cartes.
Voilà. Ouais,
chouette. Eh bien, écoute, formidable. Illusion. Donc, merci. Merci, Jérémy. À la semaine prochaine.
J'ai pas fait de petit...
Ah oui, t'as pas fait de ta petite allusion, genre le jeu de plateau, blablabla.
Bah, on aurait pas pu jouer à un jeu vidéo aussi facilement qu'un jeu de cartes, ici. Voilà.
Eh, c'est pas faux.
C'est vrai ou c'est pas vrai?
Non, c'est vrai. Donc là, c'est le moment. On revient aux jeux vidéo. Et là, je crois qu'on en avait déjà parlé. Hein. On en avait déjà parlé dans Silence en Joue.
Pas moi, mais peut-être que d'autres personnes ici en ont reparlé.
Parce que ça débarque sur Switch en version plus. C'est Box Boy and Box Girl.
Just a box. Except, hey, it walks. And it can unload other boxes. Nice little trick there, my man.
And what do you know? Another box that walks. And likewise can make other boxes. You go, girl.
Together, they're Box Boy and Box Girl.
Box Boy and Box Girls, donc dis-nous en plus.
Bah, je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé dans Silence en Joue.
Ça m'a dit quelque chose, ouais. Je crois que j'ai déjà joué.
C'est peut-être un des problèmes du jeu, mais on va revenir. C'est vrai qu'il ressemble à beaucoup d'autres puzzle games, puzzle platformer, mais on va y venir. Donc on va expliquer le principe. Donc Box Boy plus Box Girl, on incarne... Monsieur ou Madame Box, c'est une boîte, hein. C'est vraiment un jeu en 2D avec c'est du line noir avec un fond blanc et on incarne un carré avec des yeux et deux pattes. Hein. Vraiment, c'est on ne peut plus simple, voire simpliste. Et on se déplace dans un niveau, notre petite boîte se déplace donc de gauche à droite. Vous pouvez totalement imaginer de quoi il s'agit. Et il fait des petits sauts, mais pas grand chose. Et puis rapidement, on va tomber sur un obstacle trop haut pour être passé. Donc qu'est-ce qu'on nous incite à faire dans des tutoriels bien faits? Restez appuyé sur une touche et vous allez pouvoir, grosso modo, faire sortir une boîte de votre boîte. C'est-à-dire que, un petit peu comme ces blocs dans Mario, là, sur lesquels on doit marcher parce que c'est des serpentins qui vont un petit peu dans tous les sens, là, c'est pareil. On doit faire sortir une boîte pour ensuite la poser où on veut ou la jeter. Et ensuite, monter dessus pour...
Ou rester accroché.
Voilà, je vais y venir. Pardon. Parce que le gameplay ensuite se diversifie, on commence à avoir plus de boîtes, donc on peut en sortir une par le côté droit, admettons, puis sortir la deuxième par le haut, sachant qu'on est limité dans chaque niveau, on a un certain nombre de boîtes, ça peut aller... Dans certains niveaux, on peut monter jusqu'à... Enfin, moi, en tout cas, je suis allé jusqu'à 6 boîtes, donc on peut vraiment faire des serpentins assez rigolos, de formes étonnantes, qui peuvent résoudre des problèmes différents, faire un petit escalier, un pont, plein de choses, et ensuite le poser pour résoudre différentes énigmes, poser sur un bouton, éviter un objet, voilà. Et comme tu le dis, au bout d'un moment, le gameplay s'étoffe. Alors, Box Boy, il va commencer à pouvoir se servir de ses boîtes pour se téléporter presque, en tout cas pour se grappiner de l'autre côté. Donc, par exemple, on va former un crochet avec ses boîtes, on va s'accrocher à un rebord qui est trop pour être atteint, même en posant des boîtes. Et puis, en appuyant sur la touche des boîtes, on va se faire aspirer par ses propres boîtes et se retrouver là où en fait se trouvait la dernière boîte. Et donc on va pouvoir évoluer dans des niveaux comme ça.
J'ai compris parce que j'ai vu moi la vidéo.
Ah oui, c'est compliqué.
je ne sais pas, vous avez compris?
Non, j'ai rien compris.
Non, moi j'avais joué un petit peu au premier qui était sorti sur 3DS à l'époque.
Ah, c'est ça.
Ouais, c'est le quatrième épisode. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Ouais.
C'est une saga avec un lore aussi. Tout ça.
Voilà, c'est une saga. Hein, sachant que l'histoire, j'en parle pas, hein, mais c'est oh mon dieu, le monde des boîtes.
Ah non, il reprend son accent.
Mais ils arrivent à renouveler quand même un peu parce que 4 épisodes, ça fait beaucoup.
Écoute, moi c'est mon premier.
Donc, scénaristiquement, on est comment scénaristiquement? Alors,
scénaristiquement, donc dans le monde des boîtes, il y a une météorite qui tombe et qui tue tout le monde, grosso modo. Et donc on doit finir des mondes pour ressusciter nos petits copains.
C'est Mortal Kombat, c'est pareil.
Ça, c'est le Netherworld. Hein. C'est le Netherworld. J'en étais sûr. Hein.
C'est vrai que la façon dont ils en parlent dans le jeu, ça me fait rien. Oui, dans le monde, machin. Enfin bref.
Mais il y a ça. Et puis au bout d'un moment, donc, on peut avoir aussi on va pouvoir sauter. depuis. Enfin, en fait, grosso modo, on va pouvoir se faire une excroissance par en dessous et donc ensuite pouvoir sauter depuis ces boîtes comme ça pour éviter d'être sur des pics. On va nous mettre des téléporteurs, des ressorts, des boutons en tout genre. Voilà, donc en fait, évidemment, le gameplay varie à la sauce Nintendo classique, c'est-à-dire un monde égale une spécificité de gameplay et de level design qui va s'ajouter aux autres et qui, in fine, vont faire des niveaux de plus en plus complexes, sachant que le jeu va vous inciter à chaque fois à utiliser votre dernière compétence acquise. On est dans une classique de chez classique, mais en même temps, c'est solide. Tu vois, c'est vrai qu'on s'ennuie pas, le jeu nous fait réfléchir, le jeu en plus nous incite à utiliser le moins de boîtes possible, donc il y a un système de comptage de boîtes, c'est-à-dire que si vous posez vos boîtes ou si vous déplacez avec vos boîtes, une fois qu'elles sont sorties, c'est compté comme des boîtes utilisées, sachant que vous pouvez utiliser vos boîtes, les sortir et les re-rentrer, elles ne comptent pas, donc c'est important dans la façon de gérer le niveau, et à la fin on va vous dire, si tu as utilisé moins de, 12 boîtes, et on va te donner 3 médailles si tu as utilisé moins de 20 boîtes, 2 médailles, etc.
Ça fait penser au nombre de lignes de code dans 7 Billion Humans.
Oui, voilà, c'est ça.
Où il fallait optimiser au plus.
C'est absolument pas indispensable pour finir le jeu, puisque le jeu se débloque au fur et à mesure qu'on finit les niveaux, même si on récupère pas les différentes couronnes qui sont cachées dans les niveaux, qui sont un peu plus difficiles à atteindre. Les médailles qu'on récupère en fait servent uniquement, mais c'est le plus important, à s'acheter des costumes pour sa boîte. Alors ça, c'est très important. Pourtant, moi, je me suis acheté un costume de lapin. Je suis trop mignon. J'ai un lapin mono-sourcil. Il est vraiment trop mignon. J'en peux plus. Bref.
Corentin, des formations professionnelles, mais oui. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte.
C'est vrai. Ouais. C'est très important. Dans la boîte, il y a d'autres boîtes, donc c'est un peu compliqué. Un aspect un peu matrioshka compliqué. Voilà. La nouveauté de ce Box Boy, est-ce que tu me posais la question, en tout cas, Camille, par rapport aux autres jeux, c'est l'ajout d'un mode coopération. D'où le Box Girl, puisqu'on joue on joue en couple, alors on peut choisir en vrai qu'on joue n'importe qui, on s'en fiche. Voilà, on peut jouer à deux. C'est vrai que la Switch est faite pour ça. Hein. On est au bar, je dis toujours ça parce que ça n'arrive jamais en vrai, mais on est n'importe où. En vrai, j'ai déjà défié quelqu'un à Mario Kart au bar, mais bref, c'est une autre histoire. On peut poser la Switch n'importe où, en camping, n'importe où. On décroche les deux Joy-Con et on peut se mettre à jouer en coopération à Box Boy ou Box Girl.
Oh, c'est pas mal ça.
C'est vraiment sympa. En plus, ça. Je me pensais fort au puzzle platformer comme celui-là, et c'est vrai que je pense avoir joué assez de puzzle platformer pour avoir compris comment fonctionnait la plupart des choses. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que comme on te demande d'aller au plus efficace et d'utiliser le moins de boîtes, et en fait c'est ma copine qui avait souvent les meilleures solutions les plus efficaces, et c'était assez intéressant de voir qu'on réfléchissait pas du tout de la même façon, mais que c'était elle la plus économe dans l'histoire. Donc c'est bien. Non mais attends, on va faire comme ça. Genre moi je trouve une solution, mais elle trouve une solution avec 2 boîtes au lieu de 3. Ah bah là c'est bon, on est bon. On peut choper la médaille. Donc c'est vrai que c'est assez accessible. Là, c'est vrai qu'à expliquer à l'audio, c'est compliqué, Box Boy. Mais en vrai, quand on regarde, c'est évident immédiatement. C'est vraiment le genre de jeu, peut-être pour introduire quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Moi, je trouve que c'est sympa. On dit, regarde, c'est pas forcément de la violence, c'est aussi pour réfléchir, c'est aussi marrant, on est à deux, on rigole, on fait des bêtises. Au final, on finit dans Box Boy à se monter les uns sur les autres, à se créer des blocs pour s'embêter, on se marre bien. Voilà, donc... Et je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer au puzzle platformer, on a l'impression d'avoir vu ça beaucoup de fois. Et surtout quand on a joué aux autres Box Boy. Donc je vais peut-être pas le recommander pour si vous avez fait les autres Box Boy. C'est le même jeu, hein, vraiment. Ou en tout cas, quasiment le même jeu, peut-être avec d'autres niveaux. Mais si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer, comme moi, enfin moi je vais plutôt passer un bon moment, c'est l'occasion d'essayer de s'y mettre. D'autant qu'il est vraiment pas cher. Il est à 10€, il y a 270 niveaux, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, c'est chez Nintendo, c'est Al Laboratory qui a développé. Et c'est sur Switch.
Merci. Ça, mais en plus, c'est vrai que ça va bien avec la Switch. Enfin, oui. Quand même, c'est le genre de truc.
L'aspect coop marche bien, clairement.
Et là, on va parler d'autre chose. On va parler du diable, on va parler du mal, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire. On va parler de Elder Scrolls Blade. Et tu vois, je l'aime tellement pas que j'ai pas mis de son. donc, c'est Bethesda qui se vautre comme tant d'autres dans le free-to-play, qui se vautre comme tant d'autres dans les récompenses quotidiennes, qui se vautre comme tant d'autres dans les gemmes à acheter avec du vrai argent. d'argent pour aller plus vite dans le jeu.
City Builder.
Ah là là. Jérémy, toi, tu as joué un petit peu alors à ce ouais. Blades. Ouais. Alors on sent déjà le ouais enthousiaste.
Non, mais je dois dire que pour moi, c'était comme un peu un system seller. Tu vois, quand j'ai un iPhone 10 Max, je me suis dit qu'est-ce qui me justifie un tel achat. Je me suis dit, il va avoir forcément des AAA qui vont arriver sur cette plateforme. Et donc, je l'avais précommandé évidemment dès l'annonce. Et donc, j'ai fait partie des chanceux qui pouvaient le bêta-tester depuis quelques semaines déjà. Et j'ai pas beaucoup bêta-testé en fait, parce que déjà au début, quand tu commences, tu te rends compte que c'est un. Ils ont essayé de faire un mini Skyrim. C'est-à-dire qu'ils ont pris Skyrim, ils ont dit c'est un super succès, on va l'adapter au mobile. Et il n'y a absolument rien de nouveau nulle part. Il y a juste des donjons super courts, des combats super basiques qui sont primitifs. Il y a une histoire de base, mais qui c'est des petits morceaux de trucs qui ne servent à rien. Et je me suis dit, je vais commencer un peu à lire les textes pour rentrer un peu dedans, pour voir s'il n'y a pas du narratif derrière. Parce que j'ai compris que ce n'est pas un jeu de console, c'est un jeu mobile, c'est quelque chose qui ne me donnera pas ce que j'avais attendu. Mais c'est vrai que j'ai tenté de lire l'histoire, j'ai tenté de rentrer un peu tout ça. Puis en fait, c'est du FedEx, c'est des trucs à la con. Et donc, au bout d'un moment, j'avais 5 heures d'avion. Là, j'ai regardé le jeu, je sais qu'on allait en parler là. Je savais qu'aller un peu plus loin me donnerait un peu plus d'arguments ou d'idées, de choses à dire. Je n'ai pas allumé. Voilà.
Camille ?
J'ai pas grand chose de plus à ajouter. Voilà, l'histoire, elle est anecdotique. Tu dois faire des donjons vraiment creux. Enfin, c'est rapide.
Et en plus, un donjon, c'est un 4 pièces, quoi.
Ouais, mais voilà. Et puis, t'as des pauvres mini.
Bien placé ou pas ? Parce que je voulais peut-être acheter.
Des donjons, c'est ce qui est bien, c'est que tu n'as même pas besoin d'y aller. C'est-à-dire qu'en fait, tu es téléporté dans le donjon, tu reviens,
tu gagnes pas assez de trésors pour te permettre de continuer serein.
Mais tu peux tuer beaucoup de rats si tu aimes pas les rats.
C'est sympa. Et du coup,
qui
voilà.
Aime les rats ? Aussi, il y a des gens qui aiment les rats, j'exagère. C'est sympa, les rats.
C'est une machine à fric. Voilà, Bethesda a compris.
C'est ça. Alors, vous êtes dur sur l'histoire, parce que alors on revient dans sa ville, parce que on a fait partie d'une.
Arrête, c'est chiant.
et c'est nous qui allons faire des gestes.
Je peux la raconter avec l'accent ?
Non, mais la ville, elle a brûlé, et t'es de retour dans ta ville, et tu as trouvé qui a brûlé la ville, et c'est la reine de sang.
Tiens,
fin d'histoire. Générique.
Générique de fin.
J'étais curieux de voir à quoi elle ressemble et.
Mais
et
non.
On se rend pas.
Si. Moi, je suis au niveau 7 quand même.
Ouais, bravo.
Parce que alors voilà, il faut quand même rétablir des choses. Il faut quand même les dire haut et fort. Il faut quand même établir des règles et appeler au vote d'une loi. Parce que je pense qu'il y a plus d'autres choses qui va nous protéger de ce cancer du jeu vidéo. Il faut interdire les récompenses quotidiennes dans tout. Les récompenses quotidiennes dans tous les jeux vidéo. Fortnite, tout machin. Parce que là, c'est basé là-dessus. Hein. C'est la base du gameplay, c'est le coffre. Parce que
les niveaux de coffre.
Voilà, il y a des niveaux de coffre. Évidemment, le coffre en bois va s'ouvrir en 5 secondes, le coffre en argent va s'ouvrir en 1 heure, le coffre en doré va s'ouvrir en 6 heures. Et après, il y a sans doute des coffres qui vont s'ouvrir en 12 heures, 24 heures, 48 heures. Et évidemment, pour ouvrir plus vite les coffres, il faut des gemmes. Pour avoir des gemmes, il faut payer. Voilà, c'est.
Non, tu peux attendre quelques semaines et tout.
Voilà,
le jour
tu peux attendre quelques. Exactement. Donc, on l'a dit, le scénario est totalement indigent. Le gameplay ne sert à rien. Les donjons sont hyper courts et en plus avec je sais pas si vous êtes allé jusque là, alors je comprendrais que vous n'êtes pas allé jusque là parce que ça n'a aucun intérêt, mais il y a aussi des boss. Alors les boss ont cette particularité dans Elder Scrolls Blades qui sont imbattables. Ils sont purement imbattables. Hein. Enfin, moi, je sais pas. Et donc, tu es obligé de dépenser un outil de résurrection pour finalement le battre. Donc, évidemment, pour avoir des trucs de résurrection, au début, tu en as. C'est le truc de dealer de base. Hein. Au début, ils t'en filent 3. Mais après, pour en avoir, il faut dépenser des gemmes, donc dépenser du pognon.
Mais moi, je veux dire, si le jeu avait été bon, c'est-à-dire que s'ils avaient réussi à faire quelque chose, parce qu'ils ont quand même Bethesda, ils ont des qualités. On a des jeux qu'on aime là-bas. Ils ont des des scénaristes, ils ont des gens qui savent designer des game designers. Et si le jeu avait été bon, moi, et que un free-to-play, ça ne me dérange pas de payer 5-10 dollars par mois ou euros par mois, ça ne me dérange pas si le temps où je joue, et je joue quotidiennement, je fais des... Bon, ça ne me dérangerait pas. Mais le jeu est nul, c'est-à-dire que ça ne te donne pas envie d'y jouer.
Mais il n'y a pas d'âme, il n'y a rien.
Voilà, donc c'est le problème, évidemment, il y a le problème des lootbox et du quotidien, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais ce jeu-là, et au-delà de ça, il est nul. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire de rétention.
Donc voilà, c'était notre... J'espère qu'on vous a donné envie de ne pas s'y jouer. De toute façon, voilà, à partir du moment où il y a des récompenses quotidiennes, où il y a ce genre de fonctionnement du free-to-play, aucun intérêt absolument. Et on va... Alors voilà, là, on arrive en mode... Spoiler alert, parce que nous allons parler de Life is Strange 2, épisode 3, qui est donc sorti le 9 mai, si je ne m'abuse.
Je sais pas, je t'avoue que j'ai attendu pour le faire, donc je ne sais plus la date.
Alors, l'avertissement, c'est que nous allons essayer de ne pas trop spoiler l'épisode 3 en parlant. Il peut arriver qu'il arrive et qu'il y ait un accident, et on s'en excuse par avance, mais a priori, sur l'épisode 3, on va être assez...
Il y a peu de risques, en vrai. Mais...
Je pense qu'il y a très peu de risques. Par contre, on va peut-être par accident spoiler les épisodes 1 et 2.
Par accident du tout, on va devoir parler
de l'épisode 1 et 2. Ne serait-ce que pour dire, évoquer la situation au début de l'épisode.
Bah oui.
Donc voilà, pour ceux, et je sais qu'ils existent et qu'ils sont là, et on en a un exemplaire présent ici. Désolé, Jérémy, tu peux sortir si tu veux. Mais il y a des gens qui attendent d'avoir les 5 épisodes pour y jouer en one shot. Là, c'est pour cela surtout qu'on prévient, c'est qu'on risque d'évoquer des éléments du scénario des épisodes 1 et 2. Donc on va parler de Life is Strange, épisode 3.
Once upon a time, in a wild, wild world. Ready when you are, young master. Daniel, that's amazing.
How do you feel with us misfits?
Come on!
I actually feel free.
This place is great for inspiration.
To your next adventure.
How long are we gonna stay here? It's been like a month.
I know, but we need more money to get to Puerto Los.
Donc, mais je crois qu'on est tous à jour, sauf toi, Jérémy, parce que tu vas attendre le cinquième épisode. Camille,
c'est pas compliqué d'ailleurs de réussir à fermer les écoutilles parce que c'est vrai qu'en général.
Non, parce qu'en
c'est
fait,
une
le
série
spoiler...
qui fait beaucoup parler depuis sa sortie.
Ouais, non, mais c'est le cas pour beaucoup
t'arrives
de choses.
T'arrives à.
Je suis pas du tout allergique aux spoilers. C'est-à-dire que moi, ça me gâche en général pas vraiment le truc. Je suis en général allergique au scénario linéaire où je regarde pas de série. Moi, je suis pas comme vous. J'aime pas de Netflix. Donc, je suis pas allergique à ça. Mais j'imagine qu'on a des auditeurs là qui doivent pester et sur le forum.
Non, c'était une question plus en tant que quoi.
Ils
sont prévenus.
Moi, je comprends tout à fait qu'on attende d'avoir la totale. Mais
tu leur coupes 10 minutes de podcast en les prévenant, ça les intéresse. Non.
Les gens, ils ne sont plus là. Ceux qu'on risque de spoiler, ils n'écoutent plus là. Et on peut parler, on est entre nous. Camille, tu as fini l'épisode cette nuit, comme moi, comme Patrick.
Mais surtout, j'ai fait le 1, le 2, le 3.
Ah, en ligne droite.
Ouais.
C'était dur. Et alors?
En plus, moi d'habitude, j'attends que justement la saison soit terminée pour ne pas avoir à attendre. Et putain, pardon. Et en fait, surtout à la fin de l'épisode 3, tu fais ah.
Ouais.
Parce que le final est quand même... Parce qu'on a un rythme assez lent au début. Et finalement, on sent quand même qu'il y a une menace qui pèse. On ne sait pas trop comment, où ça va nous amener. Et en fait, le final, comme on en parlait tout à l'heure, la dernière heure, elle est... enfin, tu ne peux pas la lâcher.
C'est ça.
Et du coup, en plus, il faut attendre 2-3 mois là, pour la suite. Ça va être assez long.
En août pour la suite. Donc, cet épisode 3, ce tempo, alors on va établir, on a quitté Sean et Daniel, ils partaient de chez leurs grands-parents, à Beaver Creek, quelque chose dans le genre. Et donc ça semble être un peu la tendance. Bon, on a vu que 3 épisodes, mais il y a cette ellipse entre chaque épisode.
Ouais, de
donc,
plusieurs mois.
On a une ellipse de plusieurs mois et on les retrouve. trouve en Californie du Sud, du Nord, Californie du Nord.
Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur la gestion des ellipses dans Life is Strange, que je trouve excellente? Parce que je sais pas si ça vous fait pareil pour vous, moi je lis le carnet pour savoir tout ce qui s'est passé entre les épisodes. Ça, je trouve ça super. Ça, c'est vraiment un des trucs que moi, en fait, je m'en suis rendu compte là. J'ai remarqué que j'ai déjà fait ça à l'épisode précédent, parce que du coup, tu pouvais pas le faire à l'épisode 1. Mais ouais, tu lis le carnet et tu fais ah oui, donc c'est passé.
Il y a ça, et puis à l'usage des flashbacks qui sont importants aussi.
Oh ouais, mais je trouve que le carnet, ça marche mieux. Parce que le carnet, en plus, c'est très important pour Sean. Et en plus, il le fait avec son style. Hein. Moi, j'aime bien son style de dessin. Et il y a plein de trucs, du coup, on n'a pas besoin de s'embarrasser de flashbacks ou de dialogues, pas nécessaire. T'as envie d'aller regarder le carnet, tu vas regarder le carnet, tu t'apprends qu'ils sont restés 3 mois dans une ferme, puis qu'ils ont dû partir parce qu'on les a menacés de les livrer à la police, ce genre de choses. C'est super, c'est vraiment super d'avoir cette idée-là pour remplir les trous entre les épisodes. Ça évite de se taper toutes l'épopée qui peut être chiante par moment. Là, c'est très intelligent.
C'est vrai que ça, on commence dans l'attente. Hein, on est, et donc, du coup, voilà. Finalement, cet épisode 3, c'est un feu de camp de Red Dead Redemption 2. Non, mais c'est pas ça.
Ouais,
c'est un peu ça, non ?
Le sujet central qu'on avait déjà dans les deux premiers épisodes, c'est que là, ça se ressente vraiment sur l'éducation, en fait. D'ailleurs, ça commence dès l'intro, je crois, où on a un flashback avec le père des deux garçons qui lui apprend à être un grand frère et d'être un modèle pour son petit frère. Et du coup, il est obligé de grandir plus vite et de prendre un rôle de père plutôt. Et du coup, ça me faisait penser un peu à Clémentine. Et du coup, on retrouve un peu cette idée. Des fois, on est un peu tiraillé d'ailleurs dans les décisions à prendre, parce que des fois, on a envie de faire ce qu'on pense, qui serait le mieux, mais au final, on a le regard du petit frère et on se dit que toute décision va forcément l'influencer par la suite. Quoi. Et dans cet épisode 3, on sent qu'il y a une énorme tension parce que le petit grandit aussi et son pouvoir aussi grandit et on s'inquiète un peu quand même.
C'est ça, c'est que là, je trouve qu'on va, on a monté un peu, on va dans le sujet. On est vraiment, c'est un truc sur le sujet de Life is Strange 2. Hein. C'est le sujet, c'est la fraternité, le rapport d'éducation. En fait, c'est le sujet de cette saison-là, hein, de toute façon. Et là, c'est vrai qu'on arrive au cœur, on arrive vraiment au cœur du truc. C'est l'enfance, l'adolescence, le moment où justement cette éducation arrive en conflit avec l'autonomie, avec la volonté d'autonomie de l'enfant. Et donc, c'est vrai que c'est ce moment-là de conflit un peu charnière qui est évoqué.
Et presque un passage en mode adulte plus rapide qu'il devrait. On sent qu'ils doivent devenir déjà des adultes.
Et j'ose dire la peur de basculer du côté obscur aussi un peu.
En fait, le truc, c'est que Sean n'a plus finalement, enfin, plus beaucoup de moyens de pression sur Daniel pour gérer son éducation. Enfin, Daniel, s'il veut, il l'envoie voler dans l'espace. Il le fait. Donc, Sean, il marche sur des œufs, il fait un numéro d'équilibriste de dingue, il doit essayer d'insuffler des règles morales à son petit frère et dans un contexte de survie particulier, survie sociale, où ils sont recherchés par la police, ils sont en fuite en avant, tout ça, qui est intéressante. Après, je trouve, même si c'est pas forcément un défaut, mais c'est vrai que moi, ça joue peut-être un peu sur ma volonté d'aller plus loin dans l'histoire, c'est que tout est un peu prévisible dans les frames. On n'est jamais réellement surpris. On sait où on va, ce qui n'est pas désagréable des fois. On se dit, ah, je l'avais dit, ou alors, je voulais que ça arrive et c'est arrivé.
Il y a quand même des grosses ficelles, quoi.
Il y a des grosses ficelles qui, je pense, et à titre personnel, je me fais souvent la réflexion, mais si on avait Life is Strange en série avec ce scénario-là, est-ce qu'on serait aussi tolérant? Je pense que oui, parce qu'on utiliserait d'autres.
Tu vivrais différemment.
Tu vivrais différemment, tu aurais moins de choix.
C'est tout l'intérêt du jeu vidéo.
C'est vrai. Et du coup, je me demande si c'est vraiment un défaut. En tout cas, moi, je pense que l'effet principal que ça a sur l'histoire, et ça s'est vraiment ressenti, moi, je trouve que ça se ressent particulièrement sur cet épisode-là où on ne bouge pas, on reste stationnaire, il y a une unité de lieu chère à Patrick. Comme on ne voyage pas, on n'a pas la folie des grandeurs, et donc on est vraiment focalisé sur ces.
Et c'est un peu étouffant en plus d'ailleurs, parce que finalement on a trouvé une nouvelle famille, mais comme on ne bouge pas, on a toujours cette impression de danger qui se resserre autour de nous. Et puis avec le travail, parce qu'en fait dans le camp ils ont trouvé aussi un moyen de travailler, dans une serre de cannabis, hein, si je ne me trompe pas. Et du coup, en plus, le patron, il est un peu louche, il a l'air d'être un peu violent. Du coup, on sent que ça se resserre. Quoi.
C'est Gus dans Breaking Bad, quoi. C'est lui, avec une barbe. C'est Gus avec une barbe.
Exact, c'est vrai.
Et, d'ailleurs, le gros bras, il ressemble un peu à Heisenberg, donc c'est rigolo.
Parfait.
Mais non, mais tu vois, tu parles des dealers, ils sont un peu classiques, quoi. Ils sont un peu, en plus, un peu gentils, moi, je les trouve.
Ouais, gentils, et puis ils profitent d'eux, quoi. Enfin,
oui, voilà. Je m'attendais à ce soit beaucoup plus violent que ça. Ils sont pas
pas très gentils quand même à un moment. Hein, c'est...
Ah oui, c'est tout l'intérêt. Mais je les trouve un peu.
C'est des petits artisans hein, quand même. Hein. On est quand même dans les petits artisans hein, de la Marie-Jeanne.
Ça a pas l'air d'être un gros cartel.
Ouais, voilà,
il a du monde au-dessus aussi. Enfin, faut que,
on est dans la culture bio.
Puis dans un contexte de légalisation progressive des États-Unis au niveau
Moi, ce que j'ai trouvé très fort, il y a quelques petits points que j'ai notés en jouant. Je prends toujours des notes en jouant. Et moi, ce que je trouve très fort, sans trop spoiler, je pense qu'il faut, faut pas trop dire les choses pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc jouez-y et après on en écoutez. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle d'un duo de personnages. Ils sont deux frères, les principaux évidemment. Il y a d'autres personnages autour d'eux, mais ils sont deux, mais ils deviennent trois. Il y a cette force mystérieuse qui commence, les mots commencent à être posés dessus. Oui. La façon dont on commence à dire, il y a quelque chose avec nous.
Il y a Daniel qui le décrit de manière.
C'est en moi, et je trouve que les mots sont très forts. Il y a très peu de mots. On sent que c'est presque un tabou cette force, parce que déjà ils doivent le cacher techniquement aux gens autour d'eux, même entre eux. Il y a très peu de mots sur ce qui se passe. Ouais. Et le peu de fois où ils en parlent, où la chose est nommée, je trouve qu'il y a une intensité lorsque les mots sont posés sur cette force qui, là, devient en plus inquiétante. Vraiment. Et je trouve que c'est une force et qu'ils sont trois maintenant. Il y a une personnification de cette menace. Ça, j'ai trouvé ça très fort.
Il en parle à la troisième personne comme si elle avait
sa volonté propre. Ça devient un personnage et ça, on verra si ça évolue dans ce sens-là ou pas. Et en tout cas, je trouve ça intéressant. Moi, après, il y a des séquences qui m'ont marqué. Le flashback au début. Alors, le flashback, c'est intéressant ce que tu disais, Corentin, sur justement le flashback au cinéma. On connaît ça par cœur. Le flashback au cinéma, c'est une séquence d'un film linéaire avec un moment où tu sais que c'est un flashback. Tu le resitues mentalement dans une chronologie. Là, tu le vis. Et je trouve que ce flashback en début de jeu, il est saisissant parce qu'il te met toi en position de joueur, comment tu ressens t'es interactif, c'est toi qui es acteur quasiment de l'action, tu sais que tu es dans une temporalité avec des événements qui sont déjà arrivés et que ce que tu es en train de vivre est déjà révolu, que des personnages que tu vas croiser ne sont plus là au moment où justement de la narration du jeu à l'heure actuelle, il y a quelque chose je trouve de touchant dans ce passage où justement tu sais dans un flashback tu sais que tu es dans un passé révolu tu le prends en main et tu es acteur toi en tant que joueur. Et
ce que j'ai trouvé assez subtil dans l'utilisation de ce flashback, c'est que finalement ça te remet dans une situation de sécurité, c'est-à-dire que
t'as une séquence de jeu où t'as pas peur
parce que tu sais qu'il va rien t'arriver
rien ne peut arriver parce que t'es dans le confort du passé et justement je trouve que ça pose cette question du passé un peu comme Mortal Kombat.
Avec...
Je plaisante. Moi, ça m'a touché. Et je suis d'accord sur le côté réconfort, la zone de confort du passé. Et tu le ressens vraiment manette en main, c'est physique. Et c'est pour ça que tu vois, le cinéma ne peut pas vraiment te donner ça. Et c'est que le jeu narratif peut te donner cette sensation-là. Puis moi, un autre passage qui m'a.
Il pourrait faire mieux, à mon sens. Moi, ce qui me frustrait presque, c'est que là, l'enjeu de ce troisième épisode, en tout cas, c'est quoi? C'est Sean qui veut vivre sa vie d'ado un minimum, quand même, parce qu'il ne peut pas. À cause des circonstances, il ne peut pas fumer de la weed avec ses copains vraiment parce qu'il doit s'occuper de Daniel, ou alors il est tiraillé par l'éducation de Daniel, donc c'est la vie d'ado Sean contre l'enfance de Daniel, l'éducation de Daniel. Le problème c'est que techniquement en tant que joueur, il n'y a rien qui te pousse à ne pas s'occuper de l'éducation de Daniel. Moi à titre personnel, je ne vois rien qui me pousse vraiment à me défoncer la gueule à la bière ou à la truc. Et il faudrait rajouter cette petite élément de gameplay qui te pousserait, il y a de la frustration qui pourrait se construire auprès de Sean qui se construit jamais. T'es vraiment à fond sur tes choix perso.
Il est quand même très, il a beaucoup de courage. Enfin,
mais il a du courage.
Il pourrait s'énerver un peu plus.
Ah oui,
il est trop.
Il est chill, mais parce qu'on est chill nous, parce qu'on n'a pas la frustration de Sean. Et ça, c'est pour moi la limite.
Je me suis fait exactement cette même remarque, notamment et sur cet épisode, parce qu'en plus cet épisode, il joue, on l'a dit, avec des paramètres très subtils finalement, d'émotions, de relations et tout ça. Et à certains moments, on est un peu. J'étais un peu frustré parce que je trouvais que, que d'une séquence un peu subtile, un peu qui était un peu à régler au millimètre, on arrivait à une décision un peu à la Telltale bourrin.
Tu penses
ça.
À aller se coucher ou rester à la soirée, c'est
par
ça
exemple.
C'est
vois,
vraiment la bourrine de ouf, ça.
Et du coup, on était voilà, il y a une situation émotionnelle un peu subtile, et finalement, quand le jeu vidéo reprend son droit au moment où il faut le choix, le moment où il faut prendre un choix, attention, cela peut avoir des conséquences sur la suite de votre aventure, blablabla, blablabla, et bien on arrive sur quelque chose d'un peu manichéen, un peu et ça se voit. Moi, je sais pas si vous avez été si vous avez regardé sur le pourcentage à la fin du jeu, quand on a le pourcentage du nombre de joueurs et tout ça, et ben je trouve qu'il n'y a pas assez de décisions, et on le voit dans les décisions.
Elles
c'est souvent
unanime,
c'est souvent 80-20, 85-15. Alors, et je crois qu'il y a un moment, je ne sais plus à quel moment de l'épisode, où il y a une des décisions qui est quasiment à 50-50. Et là, on se dit, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils ont réussi à proposer une décision aux joueurs, où finalement, les gens se sont séparés en deux voies. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir récupéré plus ce genre de situation. C'est-à-dire, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire pas avoir mis de tension suffisante sur le deuxième choix. C'est effectivement, je vais me coucher avec mon petit frère parce qu'il faut être sympa, parce qu'on tient à lui et tout ça. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui te motive à rester faire la teuf avec tes potes, à fumer de la weed et à boire des bières ? Et du coup, il y a de faire...
te faire couper les cheveux.
Et du coup, voilà, c'est à ces moments où ça manque un petit peu de tiraillement un peu émotionnel.
Il y a trop de choix de l'évidence, quand même.
Encore, là, pour le coup, j'ai peut-être faire être un peu trop gentil ou j'en sais rien, mais on est en train de parler de petits réglages pour quelque chose. Je trouve que
c'est important quand même. Hein.
C'est important.
C'est l'enjeu principal du jeu. Hein.
Mais encore une fois, là, cet épisode, je trouve assez magistral en termes de rythme. Tu en as parlé, Camille, en introduction, mais c'est vrai qu'on rentre dedans au bout de une heure. Enfin. La dernière heure de jeu, on peut pas lâcher, quoi. On est accro, on est là, on a envie d'avancer, même pas pour arriver plus vite à la fin, mais pour parce que il faut savoir ce qui se passe, alors qu'on est dans quelque chose qui est pas forcément dans la rapidité, dans l'urgence, les événements qui s'entrechoquent, mais c'est parce qu'on est impliqué que on a envie d'avancer.
Ouais, j'ai bien aimé la figure. Alors au début, j'ai pesté sur la scène où on est à table, on doit couper les plantes.
C'était un jeu, moi je voulais en faire un max.
Non mais j'ai trouvé ça malin parce que alors tu t'appliques, en plus c'est pas forcément évident, c'est une sorte de jeu de rythme. Et en fait, et en même temps tu dois discuter. Et j'ai trouvé que ça posait, ouais, tu vois, la mécanique au début, je me disais pourquoi ils font ça. Et en fait, si, parce qu'en fait tu te retrouves dans une situation où tu t'appliques avec ta manette, il y a un mimétisme. Et ça, ces moments-là, moi, ça, tel l'a réussi quelques fois quand tu devais te recoudre avec les montagnes. Et ça, je trouve que si, t'as des moments comme ça de mécanique.
Tu peux pas rater ta cicatrice.
Non, mais c'était pour moi une mimétique, tu vois, de mimétisme avec ta manette où tu revis physiquement ce qu'a fait un personnage. Et là, je trouve que ce passage-là, je trouve qu'il est vraiment réussi, où tu discutes et en même temps, tu fais quelque chose.
Il rappelle l'usine de poisson un petit peu. Mais...
Oui, l'usine de poisson, mais aussi Papers, Please, tout simplement. Ouais. Papers, Please, où il faut faire plus de tâches à la fois et il faut faire des choix, des fois, aller vite et se planter ou aller lentement et s'appliquer.
L'usine de poisson, c'était
Edith Finch.
Absolument.
Mais ça te plonge dans la dynamique. Dans la narration, parce que tu deviens acteur finalement, t'es plus un joueur avec ta manette devant un jeu, es dans l'action.
D'ailleurs, c'est des moments où tu peux délaisser Daniel, genre aller aider Daniel quand il se fait mal ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des choix à faire, est-ce que tu t'appliques ou pas, quoi.
Life is Strange épisode 3, comme on l'a dit, hein, ils sont un peu durs avec nous, Dontnod, parce que Life is Strange, l'épisode 5, donc dans deux épisodes, ce sera en décembre de cette année. Donc,
ça va, il n'est pas si gros le cliffhanger en vrai.
Non mais c'est juste, là c'est août, puis décembre, enfin ça fait 18 mois quand même, on est sur une saison qui s'étale sur 18 mois.
Je trouve que le rythme est suffisamment plan-plan, sans mauvais, enfin plutôt calme on va dire, il est suffisamment calme pour que ça soit cool à picorer. Je ne verrais pas Life is Strange le faire, si je le faisais franchement d'une traite, moi je pense ça me saoulerait à titre personnel, mais là j'aime bien le picorer, la Fist Range, c'est cool, et je trouve cette saison d'ailleurs très solide.
Ouais, très. Écoutez, on est beaucoup en studio, on avait un programme chargé, on n'a pas trop fait n'importe quoi, donc c'est cool. mais pour le final de cette question à laquelle vous n'allez pas échapper, vous n'allez pas être trop long bien sûr, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Erwan, est-ce que tes enfants ont vu Steven Universe?
pas du tout.
Il faut qu'il regarde Steven Universe. C'est un excellent dessin animé de Cartoon Network qui est connu pour faire d'excellents dessins animés, surtout depuis, on va dire, l'ère Adventure Time. Voilà. D'ailleurs, Adventure Time, c'est pas un hasard que j'en parle, puisque en fait, la dame qui s'occupe de Steven Universe vient d'Adventure Time et donc a créé sa petite série. Steven Universe, ça raconte l'histoire de Steven qui habite à Plageville avec ses trois mamans. En fait, trois mamans d'adoption, ce sont les Crystal Gems, des super-héroïnes qui luttent pour sauver la Terre tous les jours, et son papa qui travaille dans un, dans un lavomatique. Ça dure sur 5 saisons, et c'est super parce que c'est extrêmement subtil, ça apprend plein de choses, enfin ça insuffle plein de choses de manière hypodermique sur la tolérance, sur l'identité, sur les voilà, tout ce qu'il y a d'autre que la famille nucléaire classique, ce genre de choses. Je recommande à tout le monde de regarder Steven Universe parce que c'est extrêmement bien réalisé, le dessin est d'une clarté, enfin c'est des lignes claires très très chouettes comme Cartoon Network sait les faire. Il y a des passages de comédie musicale. Ça dure 5 saisons, il y a des intrigues, il y a des arcs scénaristiques qui sont vraiment sympas, et c'est pour ça que ça peut plaire à la fois aux enfants qui vont voir des épisodes sympas, c'est coloré, et en même temps les parents qui auront des enjeux scénaristiques vraiment sympas. Je recommande à tout le monde Steven Universe, je pense que ça peut être quelque chose de sympa à montrer à tes enfants, Arwan, et la première saison est sur Netflix, donc autant en profiter.
Cool, merci. Jérémy, est-ce que tu as préparé quelque chose? Tu es au courant quand même qu'il y a un truc à la fin de l'émission ou...
Non, en fait, ouais.
C'est pour Baba Surprise.
Non, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas Netflix, je suis vraiment pas un consommateur ni de séries ni de films. Je regarde un peu dans l'avion des films, et je crois que bon, Game of Thrones, je l'ai vu, mais si tu remontes à une saison entière, c'était 24 heures la deuxième, quoi. C'est il y a 15-20 ans, je regarde pas. Ça m'ennuie beaucoup, mais donc je suis désolé, hein,
Mais on peut parler d'autre chose. Hein.
Non, mais par contre, j'ai une idée. Je voudrais parler de... Vous connaissez Edward EDWARD, vous connaissez ce YouTuber de rétro gaming?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui.
Voilà. Alors je vais parler de lui parce que il y a quelques mois, il s'était fait virer de jeuxvideo.com. Il faisait une vidéo par semaine, c'est pas Squeezie, donc c'est pas assez et ça doit pas produire beaucoup de... C'est trop difficile à monétiser. Donc j'ai beaucoup aimé. Il a fait un financement participatif. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est une fois par semaine, c'est tout. C'est le week-end, une petite vidéo sur un jeu, sur un concept. Une fois c'est narratif, une fois c'est un peu, c'est plus intime. Une fois c'est plus direct, à chaque fois ça change, et je trouve que je le mets au panthéon des gens normaux talentueux. Donc il y a plein de gens qui ont des talents, et lui il en a un normal, mais c'est un vrai authentique. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et voilà, je le recommande aux auditeurs sur YouTube. Edward, moi j'adore. Voilà.
Cool, merci. Patrick,
alors moi j'ai vu le Steve Jobs de Danny Boyle. Alors que j'ai trouvé intéressant.
C'est pas récent, ça.
Ah non, c'est
celui qui se passe que dans les conférences.
Exactement.
Il est super.
Et moi, j'ai trouvé que c'est un angle intéressant, en fait, de prendre, de croiser Steve Jobs. À chaque fois, une heure ou deux avant, trois grandes conférences de son histoire. Genre, je crois qu'il y a la présentation du Mac en 84, il y a l'iMac, et puis il y en a une troisième.
Il y en a quatre. Il n'y avait pas le Newton aussi?
Non.
Je crois qu'il présente Newton. Hein.
En tout cas, c'est intéressant parce que je trouve que l'angle est...
J'ai juste une question. Est-ce que c'est celui avec Kate Winslet?
Oui,
d'accord,
exactement.
J'ai beaucoup aimé aussi.
Et ce que je trouve intéressant, donc c'est ça, c'est un angle intéressant. Alors c'est un peu factice parce que t'as l'impression que le mec, en une heure avant chaque conférence, il lui arrive plein de trucs. Je pense qu'il y a un côté un petit peu factice. À chaque fois, t'as des séquences super riches en événements, en choses racontées. Après, je trouve que ça marche. Enfin, je trouve de suivre comme ça.
Ce qui est une tension permanente, en fait.
Exactement. On est à des moments. On sait que ce sont des moments super. Enfin, voilà, qui sont capitaux pour Apple et puis pour Jobs. Et puis surtout, moi, je trouve la grande force du film, c'est de pas. Enfin, d'avoir déjà pris Fassbender, qui est toujours un excellent choix. Et en fait, de pas avoir essayé d'en faire un clone physique de Jobs. C'est-à-dire qu'il est pas. Il est très vaguement maquillé, mais c'est très léger. Il est pas du tout grimé. Mais c'est Jobs. Et c'est là que tu te dis que Fassbender est bon. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas déguisé. Au bout de 2 minutes, devant toi, c'est Steve Jobs. Tu te poses pas la question. Ouais. Et ça pose la question, justement, de toutes ces, tu sais, ces biopics qui essaient vraiment de grimer le personnage, plus ou moins. Eh ben non, c'est pas ça le truc. C'est quand t'as un bon acteur qui vraiment incarne le rôle. Et là, voilà, pendant 2 heures, t'as Steve Jobs sous les yeux avec plein de choses qui sont abordées, le rapport avec Wozniak, avec le Apple II, etc. Enfin, il y a plein de choses qui
passent.
Après,
Jobs, c'est, je trouve, surtout une tenue. C'est des lunettes, le jean.
Oui, c'est une silhouette.
C'est une silhouette,
presque. Mais en tout cas, chapeau. Puis moi, je me dis, Danny Boyle et Fassbender, on sera peut-être pu être un casting de James Bond à un moment ou un autre, ça se fera
sur
jamais,
Terre 2.
Je pense. Mais il y a une frustration aussi de ce côté-là. Je me dis, mince, ces deux-là ensemble, il y a un truc qui se passe, quoi.
Camille.
Eh oui, bah moi quand je ne joue pas, en fait je joue encore, désolée. Je suis un peu mono loisir en ce moment. Je rattrape un jeu que j'avais raté du coup l'année dernière, c'est Graveyard Keeper. Donc c'est un jeu de Lazy Beer Games qui emprunte beaucoup à Stardew Valley, tant dans son mode de jeu que dans la direction artistique. Et le but c'est quoi ? C'est d'être un bon gardien de cimetière à l'époque médiévale. Oui, c'est un petit peu. Vous en avez jamais rêvé ? Non ?
Écoute, why not ?
Alors c'est assez étonnant, hein, on est plongé dans un univers du coup médiéval et c'est très très drôle, très absurde, très décalé, où il faut bien sûr dans un premier temps améliorer le cimetière, gérer les corps qui arrivent, oui, et les tombes et pas que, en fait il faut rendre service aux villageois qui habitent juste à côté, effectuer de nombreuses quêtes, mais c'est sans pression, tu te balades, tu fais un peu vraiment ce que tu veux et du coup je le recommande et en plus la bande son elle est plutôt sympa. Voilà, donc cool. C'est sur Steam, 15€.
Merci. J'ai peur d'en avoir déjà parlé. En fait, je n'ai pas pris mes notes et tout ça. Mais donc, c'est un podcast en anglais qui est sans doute ultra célèbre, mais que j'ai découvert très, très récemment.
J'aimerais vous parler de Serial.
Non, c'est pas Serial, mais c'est Reply All. Donc, c'est chez Gimlet.
Ah,
qui est vraiment le. Et donc, c'est un podcast tenu par deux personnes qui s'appellent donc PJ et Alex Goldman. Et en fait, c'est assez. En fait, c'est très nouvelle technologie, mais c'est des podcasts semi-narratifs qui parlent de nouvelles technologies. Et en fait, il y a des moments où ils résolvent des problèmes des auditeurs. En fait, un auditeur, un des derniers épisodes, par exemple, c'est un auditeur, il a une voiture et en fait, son autoradio se bloque quand il passe un podcast en particulier. Donc, et tous les autres podcasts marchent, mais ce podcast, ça bloque l'autoradio de la voiture. Donc, ils partent en enquête et justement, en fait, ils font intervenir donc la meuf de Serial dedans. Enfin,
permet de parler de technologie. Podcast de flux,
ça leur permet de raconter des histoires XML. Et les racontent super bien. Il y a notamment un épisode qui est devenu culte d'après ce que j'ai compris, où ils vont jusqu'en Inde pour aller rencontrer les gens qui font du scam.
Je crois que tu me l'as raconté.
Ce truc est absolument. Il y a des épisodes cultes, il y a des très très beaux épisodes. Une nana qui parle des. Enfin, qui a utilisé les Sims pour faire le deuil de sa grand-mère, de sa mère. Enfin voilà, beaucoup de choses très 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 fortes. Plein de témoignages, d'histoires, de trucs comme ça. C'est très drôle, c'est très bien raconté. Et ça s'appelle Reply All. Je crois que sur Twitter, j'ai dû évoquer il y a très longtemps, mais vous pouvez retrouver par les moteurs de recherche, les épisodes qui sont particulièrement marquants parmi les 170 épisodes disponibles. Voilà, c'est fini pour cette semaine. À la réalisation, c'était Solène Moulin. Merci Solène. Et puis, merci à tous. Merci Jérémy d'être passé nous voir. C'était cool.
Grand plaisir.
Ça fait
aussi très bizarre.
C'est vrai ?
Ah oui, ça fait quand même beaucoup d'années, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et moi, j'ai écouté le podcast dès le début, je suis un auditeur, hein, je ne suis pas... Ouais. Je ne me sens pas encore autre chose. Oui, je sais, mais je ne le sens pas comme ça du tout, donc voilà.
Eh bien, en tout cas, re-bienvenue, hein, c'était cool. Merci pour cette première saison qui va toucher à sa fin quand même. Il faut savoir qu'entre entre les deux saisons, donc tu m'as proposé de reprendre le flambeau de Monsieur Fall, et on a fait un test et c'était super bien passé et tout ça. Et franchement, ça assure, c'est cool. Et nous, on se retrouve pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur les internets et sur libération.fr. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.